BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, bientôt 18h, bienvenue à toutes et à tous, comme tous les soirs dans Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, la bourrasque boursière. N'ayons pas peur des mots pour Stellantis qui a perdu quasiment 15% ce soir après un avertissement sur résultat. Oui, le marché ralentit, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité du côté de Carlos Tavares? Ça fait partie des questions qu'on va poser, évidemment, ce soir jusqu'à 20h. Votre invité dans 10 minutes, Edwige.
Lui, il est médiateur des entreprises, mais en général, pas tellement pour Stellantis. C'est plutôt pour les TPE et les PME, c'est Pierre Pellouzet, le médiateur des entreprises. On viendra sur les défaillances qui sont au plus haut, qui sont à 63 000, beaucoup plus qu'avant la crise, bien sûr. Et puis là encore, une étude de la Banque de France qui vient de sortir, qui montre que notamment les TPE, les PME, dans la grande distribution de l'agroalimentaire, c'est très dangereux. Il nous dira qu'est-ce qu'il propose. Et puis, petite question, pas sûr qu'il y réponde, c'est est-ce que les entreprises ont de quoi supporter un choc fiscal?
Bonne question, elle est d'actualité. Pierre Pellouzet avec nous à 18h10. On parlera de ce budget et de ce discours de politique générale, bien sûr, demain, de Michel Barnier. Et puis, Total qui remet le couvert, vous savez, sur la question de la double cotation Paris-New York. Les infos de Mathieu Pechberti dans un instant. Tout ça, plus bien autre chose. On est ensemble, évidemment, jusqu'à 20h.
À tout à l'heure.
Good evening business, le journal.
Donc, les grands constructeurs auto qui continuent de revoir à la baisse les uns après les autres leurs chiffres pour cette année. Il y avait eu Volkswagen vendredi, il y a donc eu Stellantis aujourd'hui. Bonsoir Justine Vassogne.
Bonsoir Guillaume.
Révision qui a été, il faut le dire, assez violente, c'est vrai Justine.
Oui, on savait le constructeur en mauvaise posture, en grande difficulté aux États-Unis, mais l'ampleur du profit warning a surpris tout le monde aujourd'hui, avec une prévision de marge presque divisée par deux pour l'année 2024, qui devrait s'établir finalement entre 5,5% et 7% cette année, contre une marge à double chiffre prévue initialement. Le cash flow de Stellantis, c'est important aussi, sera négatif entre moins 5 et moins 10 milliards d'euros, alors que Stellantis visait un cash flow dans le vert pour 2024. Certains n'hésitent plus à dire aujourd'hui que Carlos Tavares a perdu sa crédibilité, qu'il est complètement démonétisé et que la question de sa succession, alors que son mandat prend fin en 2026, pourrait être posée avant cela. Autrement dit, que le board de Stellantis va lui demander des comptes, tellement la situation aux États-Unis est catastrophique. Comment n'a-t-il pas pu voir le problème aux États-Unis alors que les stocks s'accumulaient physiquement chez les concessionnaires, se demandent certains. D'autres estiment qu'il est encore temps de redresser la barre, que 2024, de toute façon, c'est une année à oublier, une année noire, mais que le groupe pourra rebondir en 2025. Les plus pessimistes jugent que c'est la fin de l'état de grâce.
Bon, cela dit, il y a des profit warnings chez d'autres acteurs de l'auto aujourd'hui, Justin.
Oui, depuis vendredi dernier, on en dénombre 4 dans le secteur. Forvia vendredi, Volkswagen vendredi soir, Aston Martin et donc Stellantis ce matin. Il y a quelques semaines, c'était BMW et Mercedes pour les constructeurs allemands et pour Aston Martin. C'est le marché chinois le principal responsable. Ils sont tous en réalité confrontés à la morosité du marché européen et à des ventes d'électriques qui patinent. On en parle souvent sur ce plateau. C'est l'heure du retour à la réalité, expliquent les analystes. La fête est finie pour les constructeurs qui ont profité depuis le Covid d'une situation anormale, avec une demande supérieure à l'offre, avec des marges mirobolantes. Tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est plutôt la douche froide et ça se ressent en bourse. Regardez les chiffres. Stellantis qui finit à moins 14%, Aston Martin moins 23%, Volkswagen moins 4%, Renault moins 5%. Renault vers qui tous les regards se tournent maintenant parce que c'est le seul constructeur européen, hormis Ferrari, à ne pas avoir fait de profit warning pour le moment.
Pour le moment. Merci beaucoup, Justine. L'action à 12,40€ qui a passé sous son seuil d'introduction pour Stellantis en 2021, c'est tout un symbole. On en reparlera avec vous, Justine. Vous reviendrez à nous voir à 18h30. On parlera du marché auto. Et puis la question, effectivement, Carlos Tavares a-t-il quand même une part de responsabilité dans cette situation? On verra ça, bien sûr, tout à l'heure à 18h30. 18h03 en attendant. La Chine, justement, on en parlait, qui continue d'annoncer des mesures pour relancer l'immobilier. Les grandes villes ont fait des annonces ce week-end. Pékin en a encore présenté ce matin pour la troisième fois en moins d'une semaine. Mathilde Chaminade.
Shanghai baisse l'apport requis pour un premier logement. Canton autorise ses habitants à acheter plus d'un logement. Shenzhen aussi. Partout, un mot d'ordre, faciliter les achats immobiliers. Mais pour Amandine Gérard, présidente de la financière de l'Arc, ce n'est qu'une partie de l'équation.
Ce que veut faire le gouvernement chinois, à date, c'est relancer l'investissement et protéger l'immobilier et sa croissance de 5%. La transmission à la consommation, on n'a pas encore le plan budgétaire et fiscal qui pourrait permettre vraiment un rebond de la consommation du marché chinois.
Mais cela n'a pas entamé l'euphorie des marchés chinois, eux qui ont connu leur plus forte hausse depuis 16 ans la semaine dernière. Ils ont encore fini sur des chapeaux de roue aujourd'hui. Plus 11% à Shenzhen, plus 8% à Shanghai à la clôture. Hausse spectaculaire, tirée peut-être par des investisseurs qui ne voulaient sous aucun prétexte rater le rallye boursier avant la Golden Week qui commence demain. Les places chinoises seront fermées pour une semaine de célébration nationale.
Mathilde Chaminade, Michel Barnier, pendant ce temps, qui continue de préparer son discours de politique générale prévu pour demain 15h. Beaucoup de pistes sont sur la table. Preuve en tout cas que rien n'est acquis. D'après nos informations, le gouvernement n'a pas transmis aujourd'hui comme prévu son projet au Haut Conseil des Finances Publiques. Ça sera pour mercredi au plus tard. À noter par ailleurs que Michel Barnier ne sollicitera pas de vote de confiance de l'Assemblée à l'issue de ce fameux discours. Dans l'actualité des entreprises, ça se confirme chez Picard, Moïse Alexandre Zouari s'apprête à devenir l'unique propriétaire. Il vient de signer via son family office avec le fonds Lion Capital pour lui racheter les 51% de Picard qui lui manquait. L'opération devrait être conclue au début de l'année prochaine. Et puis Patrick Pouyanné, le patron de Total qui ne lâche rien, vous savez, rappelez-vous, concernant ce projet de double cotation à Paris et à New York. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
D'après vos informations, il sera à New York après-demain pour en parler avec des investisseurs locaux. Il y va? Ça ne veut pas dire que c'est gagné pour autant, apparemment, Mathieu.
Exactement. Ce projet de cotation, on n'en avait pas parlé depuis la fin du printemps dernier. On sait que le projet était peut-être un petit peu enterré. Et puis finalement, pas du tout. Patrick Pouyanné a bien l'intention d'en reparler effectivement mercredi devant les investisseurs à New York. Et pour éviter une nouvelle polémique, il a, ces derniers jours, déminé le terrain avec le gouvernement. Il a eu un échange avec l'équipe de Michel Barnier pour les préparer, pour les rassurer, et c'est ce qu'on nous dit en tout cas à Matignon, que le PDG de Total Energy nous a rassuré, mais nous restons attentifs à ce que cette opération ne se fasse pas au détriment de la Bourse de Paris. On verra si il y a une nouvelle polémique ou non, mais en tout cas Patrick Pouyanné n'a pas abandonné ce projet de donc coter véritablement Total Energy avec des actions à New York, en plus de sa cotation évidemment à la Bourse de Paris, donc ça serait une double cotation, tout en signalant que la place première de Total Energy resterait bien la Bourse de Paris. Et le paradoxe, c'est que si Patrick Pouyanné a réussi à convaincre le gouvernement, contrairement à ce qui s'était passé au printemps, c'est plus difficile en interne, où il ne parvient pas pour le moment à convaincre son conseil d'administration, où, d'après nos informations, certains administrateurs français sont pour le moment réticents à ce projet. Et donc il doit encore passer cette étape et les convaincre. Donc le sujet n'est effectivement pas gagné. Et en tout cas, il n'y aura pas de décision attendue mercredi à New York.
Un grand oral, mais qui ne sera pas définitif. Voilà, on va le dire comme ça finalement. Merci beaucoup Mathieu Pechberti. On relit toutes vos informations sur le sujet évidemment sur notre site bfmbusiness.com. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On avait une belle semaine, ça a été dur aujourd'hui quand même.
C'était lourd, dans tous les sens du terme. Non, mais avec un volume d'échange en plus qui était très élevé, à 4,8 milliards d'euros d'actions négociées. Et on termine ce mois de septembre sur une baisse quotidienne de 2%. 7635 points, effectivement, après une semaine qui aura plutôt été porteuse. La semaine précédente, c'était la meilleure depuis plus d'un an. Et là, on se retrouve effectivement en kilosé. Alors, on le regarde sur les autres places boursières européennes, ça s'est un petit peu moins mal passé, on va dire. Le DAX à Francfort ne perd que 0,8%, moins 1,32% pour l'Eurostock 50, mais évidemment, on était complètement lesté par la très forte baisse de Stellantis, par l'ensemble du secteur automobile, que ce soit aussi bien les constructeurs que les équipementiers. Mais Stellantis a perdu 14,7% à 12,40€. On a Renault aussi, moins 5,7% à 38,99€. Mais alors, paradoxalement, on a des valeurs extrêmement cycliques qui ont réalisé d'excellentes performances. Il y a une hausse sur le CAC 40, c'est ArcelorMittal, plus 0,47%. On a Aperam aussi, le spécialiste de l'Inox, qui gagne 3,7% à 28,14€. Ben oui, toutes les mesures locales qui ont été annoncées du côté de la Chine stimulent tout un tas de secteurs qui vont peut-être pouvoir repartir, comme celui de la construction. Et évidemment, les sidérurgistes sont concernés au premier chef. Les chimistes aussi, on a Solvay qui signe une hausse d'1,6% à 35,20€. On a aussi Rexel qui signe une bonne performance, ainsi que Nexans. Le CAC 40 termine ce mois de septembre sur une baisse de 2% à 7637 points. Le score sur un mois, il est de 0,9%. 0,9% de hausse, donc pas grand chose. Et du côté de l'euro face au dollar, mais on reste sur les niveaux proches d'un 12. On a un peu reculé, un 11,49 là en ce moment.
Merci beaucoup Antoine. On regarde ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui perd 0,2%, c'est plus calme déjà, 42 224 points. L'indice Nasdaq de son côté qui est stable, 18 124, tout ça à la mi-séance. 18h09, c'est donc le médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet, qui est l'invité d'Edwige Chevrillon. La grande interview arrive dans deux petites minutes. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonjour à tous, bienvenue dans la grande interview. Pourquoi y a-t-il toujours autant de défaillances d'entreprises et de plus en plus avec des secteurs, on le verra évidemment dans l'automobile, l'agroalimentaire, qui sont particulièrement touchés. Pierre Pellouzet, bonsoir.
Bonsoir, Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le médiateur des entreprises. C'est vous qui essayez de trouver des solutions entre les grandes entreprises et les petites entreprises, entre des petites entreprises, entre elles, des start-up aussi.
Ouais.
Un point que vous avez souligné tout à l'heure quand on discutait, la propriété intellectuelle, comme quoi les grandes entreprises, elles piquent la propriété intellectuelle, notamment de start-up. Vous nous direz qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais d'abord sur les chiffres, les derniers chiffres que moi j'ai, je crois qu'on a les mêmes, les défaillances d'entreprises, elles atteignent là sur les 12 derniers mois 63 000. C'est beaucoup plus qu'avant.
Alors c'est plus qu'avant, puisque avant la crise on était aux alentours de 60 000 sur les années précédentes. Après, il faut toujours se méfier des grands chiffres. Moi, je relativise toujours. Je vais vous donner un autre chiffre en comparaison. Les créations d'entreprises, on était entre 600 et 800 000 créations d'entreprises avant la crise. On est depuis 3 ans à 1 million d'entreprises créées tous les ans. Donc vous voyez, si on compare ces deux chiffres, on se rend compte que oui, il y a plus de défaillance, mais comme il y a beaucoup plus de création, en relatif, l'image d'ensemble n'est pas si dramatique que ça. Après, il y a des sujets sectoriels, comme vous l'avez cité, et c'est là où il faut un peu plus creuser et se pencher sur les réalités un peu plus près du terrain.
Oui, et ben justement, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il y a une étude qui vient de sortir de la Banque de France, avec la Fédération des entreprises de France. C'est plutôt dans l'agroalimentaire. On sait que les négos commerciales, ça y est, ça va repartir. Les chiffres sont quand même assez alarmants. Hein. C'est une enquête qui porte sur 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est très très gros. Hein. Ouais. 1100 entreprises. Il y a 33% des entreprises qui sont déficitaires en 2023. Il y en avait seulement 19% en 2018. Une augmentation de 42%. Et il y a plus d'une entreprise PME-ETI sur deux aujourd'hui qui a un taux d'endettement supérieur à 7 ans. Est-ce que pour vous, l'agroalimentaire, c'est le pire des secteurs ?
Non, pas forcément le pire. Alors, il y a des secteurs qui ont été très affectés, peu affectés, et des secteurs qui vont très bien et qui se développent bien. Il y a un effet général qui est la fin du package d'aide Covid, il faut se le dire aussi, hein, avec les aides, avec les prêts garantis par l'État, et avec tout l'URSSAF qui ne demandait pas les règlements tout de suite, etc. Bon, ça c'est la fin de ce package, donc il y a un certain nombre d'entreprises qui étaient fragilisées même bien avant la crise, qui ont tenu avec ces aides et qui aujourd'hui partent en défaillance.
Les fameuses zombies.
Les zombies, voilà, c'est tout un tas de noms, mais en tout cas, il y en a qui ont rebondi aussi, et c'est très bien, et il y en a d'autres, malheureusement, on les comptabilise aujourd'hui, alors qu'elles n'ont pas été comptabilisées pendant 3 ans. Après, il y a des effets sectoriels, vous parlez de l'agroalimentaire, effectivement, c'est quoi l'effet agroalimentaire? C'est d'ailleurs dans tout le commerce, c'est l'effet inflation. Il y a eu une inflation qui a été assez forte, même très forte, sur ces dernières années. Heureusement, cette inflation maintenant diminue, on revient à l'épure de là où on était avant. Mais un, les gens ont beaucoup moins consommé, et deux, ils ont pris des habitudes de consommation. Et ça, ça marque pendant un certain temps. Donc tout ça contribue à fragiliser un certain nombre de ces entreprises. Encore une fois, là aussi, certaines vont bien s'en sortir parce qu'elles vont changer leur manière d'approvisionner les produits qu'elles vont présenter. D'autres sont plus en difficulté. Donc oui, il y a des aspects sectoriels à bien regarder.
Et est-ce que lorsqu'on regarde, vous avez entendu tout à l'heure dans le journal ce qui se passe chez Stellantis, mais on voit bien que le secteur automobile, de nouveau, connaît des difficultés, traverse des difficultés. Valeo l'a déjà annoncé, équipementier automobile, qu'il a commencé à serrer les boulons. Ça vous inquiète peut-être pour les prochaines semaines ?
Là aussi, secteur en grande vigilance pour deux raisons. Une raison conjoncturelle qui est la même que pour l'agroalimentaire. Les gens, avec l'inflation, ont ralenti leurs achats. Il y a moins de voitures achetées. Et puis, il y a un changement structurel. On passe de la voiture thermique à la voiture électrique. Ce qui veut dire toute une recomposition du tissu économique autour de ces entreprises. Donc là aussi, grande vigilance, secteur
que nous suivons bien entendu, avec beaucoup de médiation bien entendu.
Est-ce que cette transition écologique bas carbone, qui est très importante, qui est même essentielle,
indispensable,
ok, mais enfin ça a des investissements extrêmement lourds.
Oui.
Est-ce que c'est une des raisons des faillites des entreprises?
Je ne dirais pas que c'est une des raisons, parce que les investissements...
Une des causes, alors, si vous préférez.
Voilà, les investissements, c'est bon, de manière générale. Le sujet, c'est comment accompagner ces entreprises pour qu'elles puissent faire ces investissements. Et c'est là où, en fonction des secteurs, un secteur qui est un peu fragilisé et qui doit faire ses investissements, ça va être un peu plus compliqué que les secteurs en plein développement qui, eux, vont pouvoir le faire. Donc oui, il y a une vigilance à avoir. Et puis, il faut aussi utiliser tous les outils mis à disposition des entreprises. Et malheureusement, c'est là aussi où on voit que beaucoup d'entreprises ne font pas appel à ces outils et c'est dommage parce qu'ils sont là pour les aider.
Quels sont les, s'il fallait classer les, un peu les secteurs ou du moins ceux qui sont en vigilance rouge ou orange?
Oui, oui, oui.
Alors, c'est quoi là?
On a cité les principaux, il y en a un troisième sur lequel je voudrais insister, puisque comme il y a eu inflation, il y a eu hausse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça a touché directement les gens qui voulaient acheter des appartements, des maisons, et donc il y a un secteur qui allait bien, hein, qui s'était sorti de la crise plutôt bien et qui se retrouve en difficulté, c'est le secteur du BTP, ouais. En particulier de la promotion immobilière. Il y a d'autres parties des TP qui vont pas trop mal, mais la promotion immobilière, par effet de cascade, les gens n'achètent plus, on construit plus, et évidemment, il y a tout un effet cascade sur les acteurs de ce secteur.
Si on fait rapidement une ventilation, je ne sais pas si vous pouvez le faire de mémoire, sur les 63 000 défaillances d'entreprises, si on fait une ventilation, c'est quoi?
J'avoue que vous me posez une colle, ma chère Edwige, oui. Il faudrait regarder les chiffres.
Oui.
Je pense que ça touche tous les secteurs, et surtout une myriade de toutes petites entreprises. Oui. Il faut se rappeler que c'est souvent des très petites entreprises de tous les secteurs, même si on voit aujourd'hui quelques PME qui sont touchées, et là aussi, c'est interpellant.
Alors, si on regarde un peu les causes,
oui,
de ces défaillances, justement, tout à l'heure, vous avez mentionné la Covid, bien sûr, ou le Covid. Est-ce qu'il y a encore un effet Covid? Il y a encore les entreprises qui n'arrivent pas à rembourser ces fameux PGE?
Comme on l'a dit tout à l'heure, les aides, c'est fini. L'URSSAF commence à réclamer maintenant ce qu'il aurait dû, ce qui est normal, et il faut rembourser ces PGE.
Mais est-ce que ce n'est pas trop violent, justement, l'URSSAF? Nous, on a pas mal de remontées quand même, en disant, vous me direz, c'est son job. Hein,
c'est ça, il y a un moment donné, l'URSSAF, c'est notre argent à nous tous,
ouais.
Et il faut bien le récupérer. Toutes les entreprises qui s'en sont bien... Et d'ailleurs, l'immense majorité des entreprises ont passé le cap sans aucun problème. Les PGE sont remboursés, quasiment 98-99% sont remboursés. Malheureusement, il reste un certain nombre d'entreprises qui, soit parce qu'elles étaient déjà en difficulté, soit parce qu'elles vont cumuler un certain nombre de difficultés, eh bien, se retrouvent en difficulté par rapport à l'URSSAF, par exemple.
Donc, il y a Covid, il y a l'URSSAF, enfin, il y a quoi d'autre? Est-ce que...
L'énergie est un sujet aussi. Sujet qui commence là aussi à se ouais, diminuer. Mais toutes les entreprises qui ont signé un contrat dans la deuxième partie de 2022, au moment où l'énergie était au plus haut, pour certaines, pour plusieurs années, se retrouvent en difficulté. Et nous, on les retrouve en médiation aussi. C'est-à-dire, il faut qu'elles sachent qu'elles peuvent nous saisir et qu'on les aide à discuter avec leurs fournisseurs d'énergie et à trouver des solutions, qui peut être un étalement, qui peut être une sortie du contrat. Mais encore faut-il venir chercher de l'aide.
Il y a une explication aussi, peut-être, on voit, il y a un graphique derrière vous, Pierre Pellouzet, qui est... En fait, il y a eu trop de création d'entreprises, presque, depuis 2012.
Il n'y en a jamais trop.
Non, il n'y en a jamais trop. Mais en même temps, on voit que depuis 2021, 2022, 2023... Ne serait-ce parce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs,
oui,
il y a beaucoup,
oui.
Puis il y a même un changement de paradigme, hein, entre le salariat et, et les entreprises. Est-ce que c'est un peu ça qui explique en partie ce chiffre de 63 000?
Et complètement. Plus il y a d'entreprises créées, plus il y a d'entreprises qui disparaissent, statistiquement, puisque il y a le même pourcentage.
Qui disparaît?
Alors, ça dépend. Sur les entreprises qui sont créées, on sait qu'il y en a une sur trois ou quatre qui ne passent pas les 3-4 ans. Donc, vous voyez, toutes ces entreprises supplémentaires qui se sont créées sur ces dernières années viennent renforcer ce nombre de défaillances. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'entreprises. Il y en a plus, mais il y en a plus en défaillance aussi.
Est-ce que vous diriez, parce que là, c'est tout le débat, on en dira un mot tout à l'heure, bien sûr, mais ce quoi qu'il en coûte, qui nous a coûté très très cher, qui a coûté très cher aux finances publiques, donc à nous et donc aux entreprises, est-ce qu'on n'a pas été trop loin, en fait, quand vous voyez le résultat aujourd'hui?
Le résultat, c'est que toutes nos entreprises ont passé le cap. Et
que... il faisait quand même un nombre de faillites assez important, significatif.
Aujourd'hui, enfin important, qui revient au niveau de ce qu'on était avant crise, avec un petit plus.
Un décalage quand même.
Voilà.
Parce
donc,
on était à 60 000.
Moi, personnellement, je pense qu'il fallait sauver ces entreprises, il fallait sauver ces emplois. Et le prix qu'on y a mis, c'était le prix qu'il fallait y mettre. Et c'est pour ça qu'elles sont encore là.
Lorsqu'on regarde les médiations, donc c'est ce que vous faites, hein, je rappelle que les médiateurs des entreprises, les demandes de médiation, elles explosent. Si on regarde les saisines, Vous aviez 1300 saisines en 2019 et aujourd'hui, vous êtes à combien ?
2005-2006, on a doublé quasiment.
Doublé, oui.
On a doublé. Ouais. Alors pourquoi ? Un, parce qu'il y a eu 2020. Alors 2020, je vous donne le chiffre, 2020, ce n'était pas 1300, on est monté à 4500. Donc ouais. Vous voyez, l'année 2020 a été une année hallucinante pour nous, notamment parce que là, pour le coup, les retards de paiement, ce n'était plus des retards, c'était des arrêts de paiement. Hein, donc on a eu des entreprises qui ne payaient plus du tout. Donc beaucoup d'entreprises nous ont aussi découvert pendant la crise et continuent à nous saisir maintenant. Et puis il y a tous ces nouveaux sujets. On parlait des difficultés des commerçants. Les commerçants ont du mal à payer leur loyer à leurs bailleurs. On fait des médiations entre les commerçants et les bailleurs.
Il y en a combien qui sont réussis, par exemple, sur ce dossier ?
Alors, manière générale, on a un taux de réussite de 70%. Ce qui veut dire que dans 7 cas sur 10, quand les deux entreprises, puisque c'est ça, on les amène en médiation, elles trouvent une solution.
Mais est-ce que vous avez un moyen de contraindre celui qui est le mauvais payeur ou le mauvais joueur, on va dire, de venir vous voir ?
Alors, on n'a pas de moyen de le contraindre. Ceci étant, ils viennent. Vous savez, un mauvais payeur, il préfère venir confidentiellement discuter avec son fournisseur et trouver une solution plutôt que ça se retrouve sur la place publique ou un jour venir se faire contrôler par la DGCCRF et se prendre une amende.
Ouais, ça, vous pouvez les menacer de ça, quoi.
Ouais. Non, on menace pas.
Non,
on menace pas, mais on dit vous avez un problème avec votre fournisseur, ça serait bien que vous veniez confidentiellement autour de la table.
Et donc en 2024, là, on est quasiment, en octobre, on sera à 2005 aussi.
On sera à peu près à 2005. Enfin, si la tendance se continue, on sera à peu près au même niveau qu'en 2023. Oui.
Ouais. Vous m'avez dit tout à l'heure, tiens, avant de parler de la question des délais de paiement, qui sont toujours là, j'ai envie de dire, depuis que je suis journaliste économique, parle de la question des délais de paiement.
Et depuis que je viens vous voir, ma chère.
Et depuis que vous venez me voir. C'est la question de la propriété intellectuelle. Vous me disiez, il y a un véritable sujet, notamment avec des start-up, parce que les grands groupes, les grandes entreprises, elles piquent la propriété intellectuelle de ces start-up. C'est incroyable, ça.
En tout cas, il y a un danger.
Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
La médiation fait partie des solutions. Quand vous sentez qu'il y a une tension avec la personne avec laquelle vous travaillez sur la propriété intellectuelle, n'hésitez pas à nous saisir pour qu'on puisse vous faire travailler ensemble sur à qui appartient cette propriété. Vous savez, une innovation, au départ, il n'y a pas de sujet. Tout le monde s'entend bien, tout le monde se met autour de la table, travaille ensemble.
Oui.
Le problème, c'est quand l'innovation commence à devenir un vrai produit et que ce produit devient commercialisable. Et là, d'un coup, la propriété, on ne veut plus la partager.
Pour avoir une idée, par exemple, en 2024, ça vous est arrivé sur combien de cas ?
Là, c'est un pourcentage de 4-5% de nos médiations, la propriété intellectuelle, donc c'est relativement faible. Mais c'est des sujets importants.
Ouais.
Vous l'avez dit, pour une start-up, même pour une PME innovante en général, c'est ce qui fait sa vie. Si on lui prend sa propriété intellectuelle, on lui prend sa vie.
Ah bah oui, même elle se crée autour, justement.
Absolument.
C'est les brevets.
Alors après, je ne peux que leur conseiller aussi, effectivement, de se rapprocher de l'INPI, de déposer leurs brevets, sécuriser. Malheureusement, toutes ces start-up n'ont pas forcément ces réflexes-là.
Délai de paiement, c'est 15 milliards de trésorerie en moins pour les TPE et PMI. Comment vous arrivez à ce calcul-là ?
C'est la Banque de France, au travers de l'Observatoire des délais de paiement, qui fait ce calcul, qui regarde simplement l'argent qui est dans les mauvaises poches, c'est-à-dire dans les caisses des grands comptes et des grands acteurs publics et privés, d'ailleurs. Malheureusement, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Au lieu d'être, à l'instant donné, dans les caisses des TPE, PME. 15 milliards d'euros, parce que, en gros, un jour de retard de paiement, c'est 1 milliard d'euros. Donc, vous voyez, ça va très vite.
Oui. Parce qu'aujourd'hui, le retard de paiement moyen, il est de presque 13 jours.
Oui. Et on était à 10 jours avant la crise. Vous voyez, c'est terrible parce qu'on s'était tous battus. Ouais. Vous me dites, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, je peux vous dire, ça fait longtemps que je me bats là-dessus. On s'est battus. On a mis de la médiation. On a mis des amendes. On a mis des contrôles. La Banque de France dégrade les notes des entreprises. On était arrivé à faire baisser année après année. On était à 10 jours.
Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Le Covid a tout fait exploser. Et malheureusement, on n'arrive plus à revenir là où on était avant. Et ça, c'est terrible. Au-delà de la sanction, il faut que les entreprises, les grandes entreprises, les grands acteurs publics se rendent compte des conséquences. Ça tue des entreprises tous les jours.
Et dans la situation de tension. Nous, on fait la trésorerie sur le dos des PME et des ETI, quoi.
Et parfois même pas exprès. Dans beaucoup de cas qu'on voit en médiation, c'est même pas j'ai fait exprès de me faire de la trésorerie sur le dos des PME. C'est j'ai un processus de contrôle tellement compliqué que je sais plus où est la facture et elle sera payée quand elle sera payée.
Le name and shame.
Bah, ça en fait partie.
Mais bien sûr, ça marche. Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas le renforcer, justement Là, quand vous voyez 13 jours, alors qu'il était 10 jours avant.
Bah, le NEM NCHEM, il est en place. Ouais. DGCCRF le fait, publie régulièrement les noms des entreprises.
Le prochain, c'est quand
Elle le fait à chaque fois qu'elle sanctionne, en fait. Donc, il n'y a pas de date, il n'y a pas de rendez-vous mensuel. Mais quand il y a une sanction qui tombe, dans la sanction, il y a un montant. Et il y a le fait de publier, et donc elle publie la liste. Ouais. Donc, si vous allez régulièrement sur leur site, vous trouverez les noms.
Le plus mauvais payeur, c'est qui le plus mauvais payeur, c'est qui?
Il y a eu pas mal d'entreprises qui se sont fait attraper.
Non, ouais.
Mais j'allais dire, au-delà de ça, il faut changer les comportements. Moi, c'est les gens que je cherche à toucher. Tous les gens qui doivent appuyer sur le bouton et qui n'appuient pas sur le bouton, c'est ceux-là qui doivent prendre conscience. Et ça va au-delà d'un name and shame et d'une amende.
Qu'est-ce qui, juste puisque vous êtes là, profitez-en, puisque ça touche
avec
tout le monde.
Plaisir.
Non, mais vous disiez tout à l'heure, nous, on a plein d'outils.
Oui.
Et les entreprises, en fait, ne s'en saisissent pas. Par exemple,
Je commence par les médiations. La médiation
même
des
un
entreprises.
Petit livre bleu qu'on va peut-être voir.
On a un petit livre bleu, oui, oui. Si vous l'avez, je l'ai amené. Mmh. On fait un tour de France avec mon collègue médiateur du crédit pour parler de tous les outils qui existent, publics et privés, pour aider ces entreprises qui risquent d'aller en défaillance, qui ne sont pas encore, qui ont des difficultés. Les médiations, médiation des entreprises pour les relations entre entreprises, médiation du crédit pour les relations avec les banques, mais aussi, il y a aussi les commissaires qui sont là pour aider les entreprises en difficulté, commissaires départementaux aux entreprises en difficulté, c'est-à-dire dès que vous sentez que ça va un peu mal, vous pouvez aller les voir et ils vont vous aider, vous accompagner. Vous avez les tribunaux de commerce qui sont là. Alors, on connaît le tribunal de commerce pour la défaillance, mais les tribunaux de commerce, on peut aller les voir bien avant. On peut aller les voir
la confidentialité
est assurée
sécurisée.
Bien sûr, par le... D'ailleurs, j'entendais un juge au tribunal de commerce qui nous disait, quand elles viennent en prévention, dans 7 cas sur 10, on les sort du problème. Quand elles viennent plus tard, dans 7 cas sur 10, elles vont en défaillance. Donc, vous voyez, tous ces outils, il faut les connaître. Et là, les chambres de commerce, les experts comptables, il faut qu'ils se mobilisent pour faire connaître tous ces outils. Et il faut y les utiliser. Tout est confidentiel. Quand on est en médiation, c'est confidentiel. Donc, venez vous faire aider.
Pierre Pellouzet, est-ce que vous pensez, quand vous voyez au regard de tout ce qu'on vient de dire, là, pendant 20 minutes presque, est-ce que les entreprises, elles vont pouvoir supporter un choc fiscal, une hausse d'impôts?
C'est le moment où je peux jouer mon joker, n'est-ce
pas? Non, il n'y a pas de joker. Plus sérieusement.
Certaines entreprises vont très bien.
Ouais.
Donc voilà, pareil, pas de généralité comme tout à l'heure. Les entreprises qui vont très bien, est-ce qu'elles peuvent contribuer un peu plus? C'est possible. Je crois que même le patron du MEDEF, Patrick Martin, l'a dit l'autre jour. Et une entreprise qui est en difficulté, évidemment, je suppose qu'on ne lui demandera pas de payer plus d'impôts.
C'est un petit mauvais signal quand même?
C'est une évolution des choses. On savait que la situation était un peu plus tendue. Ça fait partie des outils à mettre en place quand une situation est tendue.
Voilà, il faut dire que c'est compliqué, surtout quand on dépend de Bercy. Merci beaucoup,
Pierre Pellouzet.
Merci à vous. Tout ce que vous avez expliqué avant, Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises, donc avec des secteurs, on l'a compris, qui sont quand même sous tension. Le secteur de l'automobile, ça va l'être encore plus. Le secteur du BTP et le secteur d'agroalimentaire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tout de suite, c'est Guillaume Paul qui nous apporte toute l'écho.
BFM Business, l'info éco.
Il est 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, la journée cauchemardesque de Stellantis qui a perdu quasiment 15% en bourse. Stellantis a annoncé ce matin qu'il revoyait à la baisse certains objectifs financiers sur 2024, entre autres le volume de vente et la marge opérationnelle. Le groupe dit souffrir de la morosité du marché mondial et notamment du marché américain qui constitue encore sa principale source de revenus aujourd'hui. Michel Barnier, lui, continue de préparer son discours de politique générale prévu pour demain 15h. Beaucoup de pistes sur la table, on en reparlera bien sûr d'ici 20h. Preuve en tout cas que rien n'est acquis d'après nos informations. Le gouvernement n'a pas transmis aujourd'hui comme prévu son projet au Haut Conseil des Finances Publiques. Ça sera pour mercredi au plus tard. À noter par ailleurs que Michel Barnier ne sollicitera pas de vote de confiance de l'Assemblée à l'issue de ce discours. Et puis côté entreprise, ça se confirme chez Picard. Moïse Alexandre Zouari s'apprête à devenir l'unique propriétaire. Il vient de signer avec le fonds Lion Capital pour racheter les 51% qui lui manquaient. L'opération devrait être conclue au début de l'année prochaine. 18h31, on revient avec nos experts. Première partie jusqu'à 19h. À tout de suite.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, les experts BFM sont là. Première partie jusqu'à 19h pour décrypter l'écho. Bien sûr, Justine Vassonnier est avec nous. Bonsoir Justine. Bienvenue. Emmanuel Le Chypre qui se rengorge. Et là aussi, bonsoir Edwige Chevrillon, bien sûr, qui reste avec nous. Bonsoir Edwige.
Emmanuel, bonsoir Justine.
Beaucoup de choses. On va parler budget, on va parler Stellantis. D'abord, un mot de ce chiffre que nous confirmait Pierre Pellouzet. On peut être potentiellement à combien? 63 000 défaillances d'entreprises.
Oui, 63 000 sur les 12 derniers mois.
Ouais.
Donc, effectivement, on voit que le rythme ne s'arrête pas. Donc, c'est un peu inquiétant, surtout qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que les autres. On va en parler dans un instant, évidemment, le secteur de l'automobile, la construction, surtout les promoteurs immobiliers qui sont très touchés parce que, vous voyez, la hausse des taux, donc les gens achètent moins, donc ils vendent moins. Donc, il n'y a plus de business. Ouais. Et puis, on a eu les chiffres qui viennent de tomber de la Banque de France tout à l'heure, les entreprises de l'agroalimentaire, effectivement, alors que les négociations commerciales vont se réouvrir, qui sont dans une situation quand même très, très difficile. Donc, c'est un peu tout ça que nous disait Pierre Pellouzet. En même temps, il me disait, attention, la vision générale, elle n'est pas si pessimiste que ça. Les entreprises se portent quand même plutôt bien.
Ouais.
Donc ça, c'était le grand bémol qu'il mettait par rapport à ce chiffre impressionnant.
La construction, l'agroalimentaire, même le transport, l'automobile, on va en parler, l'entreposage, l'aéronautique, même, c'est pas tout rose apparemment, hein, ce qui
non,
se passe.
Non, mais ça va mieux.
Ce rythme de 63 000, on était habitué, Emmanuel, de mémoire, pendant des années, à un rythme annuel, c'était un peu plus de 52 000 défaillances d'entreprise.
Oui, on était à 60 000 juste avant le Covid.
Donc vous dites quoi, Emmanuel? C'est plus grave? Est-ce qu'on fait que revenir à des niveaux d'antan? Non, apparemment. Est-ce qu'on purge pas le Covid et puis le phénomène des entreprises zombies dont vous parliez? Effectivement, ces entreprises qui étaient subclaquantes.
Et l'énergie aussi, qui a beaucoup
plus
de l'inflation, le pouvoir d'achat, le fait qu'on
encore un peu moins. Sans doute le rythme naturel, la respiration de l'économie française, c'est autour de 55 000 défaillances par an. Donc là, on est un peu au-dessus. On est un peu au-dessus parce qu'effectivement, il y a sans doute cet effet rattrapage post-Covid avec des entreprises qui ont été sans doute maintenues sous perfusion alors qu'elles auraient naturellement disparu. Donc ça joue un peu. Après, il faut être quand même extrêmement vigilant parce que quand on regarde même sur les 10 dernières années, il n'y a pas d'évolution très massive du taux de marge des entreprises et on peut pas dire que les entreprises françaises aient fait ces dernières années beaucoup de marge. Et on voit que ça se tend effectivement dans beaucoup de secteurs. Ça se tend notamment avec la désinflation aussi. Et ça, c'est pas très bon pour les marges. Donc on n'est pas encore dans une situation compliquée, c'est pas l'alerte rouge, mais c'est vrai que ça commence à...
Ah, c'est pas le mur des faillites qu'on a fantasmé pendant des années.
Mur des faillites, mais il y a quand même des entreprises qui pourraient rester sur le carreau, alors que en temps normal, elles auraient quand même été, sans doute, elles auraient pu vivre.
Il y a aussi le secteur du textile aussi, qui a été très frappé. Non, un point qui peut expliquer ce chiffre, et je n'avais pas forcément tilté, c'est qu'en fait, il y a eu énormément de créations d'entreprises à partir de 2020, même 2021, 2022, 2023. Et en fait, vraiment une poussée des créations d'entreprises, des toutes petites boîtes. Et donc là, on voit qu'il y a l'impact, puisque vous en avez une sur trois, une sur cinq,
bilan. Est-ce que vous n'avez pas une majorité d'auto-entrepreneurs, ce qui brouille un petit peu les chiffres quand même? Oui, voilà,
En général, la démographie, c'est des cycles de 7 ans à peu près. Ouais. Donc en fait, les défaillances d'aujourd'hui reflètent un petit peu les créations d'avant Covid.
Oui, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs parce qu'on voit bien que le salariat, ça s'est modifié avec les entreprises.
Ah, c'est post-Covid, bien sûr.
Très, très souvent, on crée sa propre entreprise pour facturer. Et donc là, il y a un impact quand même très fort sur le chiffre des défaillances.
Et puis l'impact, vous en disiez un mot, des délais, des retards de paiement. Hein, 12,9 jours, on était à 10 jours avant la crise.
C'est 1 milliard par jour.
C'est terrible.
Donc c'est tout, ils disent, c'est un peu grosso modo 15 milliards de trésorerie en moins pour les TPE et les PME.
Et le privé qui a moins de retard que le public, il faut le rappeler aussi. Ça, c'est une...
Alors le public, pas tout le public.
Oui, pas tout le public.
Il y a des très mauvais élèves et il y en a qui sont plutôt pas mauvais.
Oui.
Tout ce qui est éducation nationale, lycée, etc., ça paye plutôt pas mal. Par contre, après, les services administratifs des collectivités locales.
Les collectivités locales.
public donne pas toujours l'exemple. Ouais, voilà donc exactement. Pour le médiateur des entreprises. Stellantis donc, passons-y, qui perd ce soir quasiment 15% à la Bourse de Paris, Justing, parce que profit warning, c'est pas les premiers.
Non.
Et peut-être pas les derniers, mais c'est vrai que ce qui a été annoncé ce matin, c'est quand même assez brutal, Justine. Bah,
personne ne s'attendait à un profit warning d'une telle ampleur. On s'attendait à un profit warning, ça faisait quelques mois que Stellantis donnait des signes, mais à ce point-là, rendez-vous compte, hein, la marge opérationnelle du groupe, la prévision de marge est presque divisée par deux. On table maintenant en 2024 sur une marge entre 5,5 et 7%, alors qu'il y a encore quelques jours, on parlait d'une marge à deux chiffres. Ouais. Donc c'est quand même vraiment extrêmement impressionnant. La raison principale de ce profit warning, on la connaît aussi depuis quelques semaines, on en a déjà parlé ici, ce sont les très mauvais résultats du constructeur aux États-Unis, son marché de loin le plus profitable, le plus important, où ses ventes sont en berne. Stellantis va devoir distribuer 200 000 véhicules de moins à son réseau nord-américain au second semestre par rapport à il y a un an. Il faut absolument réduire les stocks qui s'accumulent physiquement chez les concessionnaires américains. Stellantis qui a commencé à baisser les prix de ses véhicules américains et qui va continuer à le faire dans les prochains mois pour rétablir la situation, revenir à quelque chose, une situation un peu plus normale pour le groupe.
L'action est à 12,40€. Rendez-vous compte du symbole, elle est passée sous le seul niveau d'introduction de l'action en 2021, c'était 12,53€. Voilà.
Et juste ce que disait tout à l'heure Justine par rapport à la responsabilité de Carlos Tavares, évidemment, elle est pleine et entière puisque c'est lui qui est le boss. Mais c'est qu'il a changé toutes les équipes aux États-Unis.
Il a choué.
Il y a des conflits en fait de management au niveau interne qui a un impact très très fort sur les ventes aux États-Unis.
Il y a eu un turnover extrêmement impressionnant. Il a coupé presque toutes les têtes de Jeep, de Chrysler, de Ram, ça tourne tout le temps. Aussi parce que ça ne marche pas, mais du coup c'est compliqué en effet de mettre quelque chose en place là-bas.
Alors voilà le sujet, est-ce qu'on met tous sur le dos du marché? Parce que vous le disiez Justine, effectivement Stellantis n'est pas le premier à faire un profit warning, il y a eu Volkswagen... Il y a eu Aston Martin aussi.
Aston Martin ce matin, oui.
BMW, Mercedes aussi.
BMW, Mercedes, Forvia, si on parle des équipementiers. Ouais. À peu près tous les constructeurs européens, sauf pour le moment Renault.
Est-ce qu'on met tout alors sur le dos du marché ou alors on dit effectivement, comme vous le dites, bah voilà, il y a aussi des erreurs de la part de Carlos Tavares, effectivement. Qui n'a pas voulu traiter la question des stocks aux États-Unis? Qui n'a pas voulu baisser suffisamment tôt les prix de ces véhicules, qui a sacralisé la marge finalement et qui se retrouve dans cette situation aujourd'hui?
C'est
Emmanuel, comment est-ce que vous regardez ça?
C'est facile aussi de lui mettre tout
sur
le dos.
Ah ben non, je vous pose la question simplement.
Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord cette stratégie de la marge, etc. On a vu que c'était une stratégie fragile dans le passé, puisque finalement, Carlos Ghosn, il n'avait pas vraiment une stratégie différente.
Et ah non, non, je ne suis pas d'accord. Lui,
c'était
quand même aussi.
Les marges
n'étaient
pas bonnes du tout. C'était sur les volumes.
Ah, il avait quand même cette idée de marger davantage. Il avait fait cette démarche. Après, moi, je pense qu'il y a il y a des tendances lourdes qui sont bien plus puissantes que les choix de management plus ou moins à long terme, plus ou moins visionnaires, plus ou moins brutales des uns et des autres. Et ce qui est même quand même encore plus intéressant, je trouve, c'est que j'allais dire presque ce matin, quand on regardait l'état du marché européen, quand on regardait les annonces sur la perspective, par exemple, en France, d'alourdissement encore de la fiscalité sur les voitures thermiques, on se disait finalement, Stellantis, c'est peut-être ceux qui sont les plus discrets aujourd'hui parce que ce sont eux qui, les premiers, ont pris le virage de l'association avec les Chinois. Et on se disait, c'était pas forcément une mauvaise stratégie. Et on voit que finalement, ça n'empêche pas l'entreprise, effectivement, d'être secouée par d'autres problème. Donc c'est surprenant, mais cette mutation du secteur automobile, elle est telle aujourd'hui que en fait aucun grand groupe européen, quelles que soient ses méthodes de management, n'a fait preuve de la capacité d'adaptation et de réactivité que la situation méritait.
Est-ce qu'on tape un peu trop facilement sur Carlos Tavares?
Oui, c'est vrai que la ruche tarpeillée n'est jamais très très loin. Hein. Et qu'il était Carlos Tavares, c'était vraiment... il était porté au nu un peu comme l'a été Carlos Ghosn. Mais on est très très loin quand même de ce qui s'est passé pour Carlos Ghosn, parce qu'en plus là, il y a quand même d'autres affaires derrière.
Il a construit aussi quand même lui-même sa légende.
Bien sûr.
Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu difficile pour lui. Il se proclame lui-même un psychopathe de la performance. Il s'est même comparé.
Tous les gens qui travaillent avec lui disent que c'est vrai.
C'est vrai. Il s'est comparé quand même à Mbappé hein, quand on a beaucoup critiqué sur son salaire. Bon, bah voilà. Aujourd'hui aussi.
Voilà, il est quand même Mbappé aujourd'hui. Voilà.
Alors ça, bon.
Attendez, son mandat s'arrête en 2026, prend fin en 2026. Certains disent. Se demande dans quelle mesure ne pourrait pas être débarqué d'ici là. Est-ce qu'il faut croire ça? Est-ce que ça vous paraît plausible, Justine?
On parle en tout cas de sa succession publiquement depuis une semaine, ce qui n'était absolument pas le cas avant. On dit hein, qu'on recherche des candidats pour 2026, deux en externe, deux en interne. Ce que disent aujourd'hui certains analystes, c'est qu'ils ne voient pas comment le board de Stellantis ne pourrait rien dire après ce qui se passe aux États-Unis. Comment est-ce que Carlos Tabarès n'a pas vu arriver les problèmes? Vraiment, la question se pose. Certains disent aujourd'hui, il est démonétisé, Carlos Tabarès.
Il y a ce qui se passe aussi quand même en Italie, hein, qui est très très les rapports entre le fascisme John Elkar, mais quand même et Giorgia Meloni. Donc ça, c'est un point. Et aussi ce qui se passe en Europe, parce que quand même, il a été le premier à taper sur la table. C'était à notre micro, hein, où il a dit mais attendez, c'est de la folie tout ce qu'on est en train de faire aussi vite. On n'y arrivera jamais. Et puis maintenant, il dit attendez, on a fait des efforts tellement colossaux. C'est Luca De Meo, bizarrement, qui dit attention, stop, ça va beaucoup trop vite. Et c'est lui qui dit attendez, on a fait tellement d'efforts que maintenant il faut y aller. Donc on voit que quand même, ils ont été très déstabilisés. Ce que disait Justine, il y a eu le marché américain, là où il y avait une problématique très particulière, mais c'était la vache à lait du nouveau Stellantis. Et puis maintenant, il y a ce qui se passe au niveau européen, où là, c'est quand même un peu... C'est très, très, très compliqué à décortiquer exactement ce qui se passe et ce qui va se passer.
Quand vous dites qu'il est démonétisé, enfin, c'est un discours qu'on n'aurait pas imaginé tenir, entendre il y a seulement quelques mois.
Bien sûr que non. Il y a six mois, c'était encore le surdoué de l'automobile. Et aujourd'hui...
Il va peut-être le redevenir, allez.
Peut-être. Non, mais évidemment, il s'agit de pas l'enterrer. Il a une capacité de réaction évidemment impressionnante. Hein. On est pas en train de dire que voilà qu'il est en dehors de Stellantis. C'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que ce qui s'est passé ce matin, l'ampleur de ce profit warning, encore une fois, fait quand même poser beaucoup de questions. Et ce qui est important aussi, c'est dans la gouvernance de Stellantis. La semaine dernière, pour la première fois, on a entendu dans la presse que John Elkann, le président de Stellantis, le président italien de Stellantis, commençait un petit peu à être fatigué des décisions de Carlos Tavares, qu'en tout cas il s'inquiétait vraiment de la situation aux États-Unis. Encore une fois, c'est une première dissonance. À voir si on va entendre plus de friction entre les deux hommes. Si c'est le cas, ça va poser un vrai problème de gouvernance chez Stellantis.
Mais il y a quand même plusieurs phénomènes très particuliers à l'industrie automobile et qui pourtant est une énorme industrie. Il y a toujours eu dans cette industrie automobile une personnalisation extrême du pouvoir. C'est-à-dire que si vous reprenez tous les grands groupes automobiles européens depuis 40 ans, vous pouvez tous les associer à un moment ou à un autre une personnalité emblématique. Oui. Et vous avez aussi ce qui est assez unique pour une industrie aussi ample et aussi lourde que l'automobile, c'est que vous avez chez tous les groupes européens cette alternance de cycles positifs et négatifs, porteurs et destructeurs. Vous retrouvez ça chez tous les constructeurs européens. Volkswagen, qui est aujourd'hui dans la panade,
grandeur à décadence.
Volkswagen a été aussi dans la panade, rappelez-vous, à la fin des années 90.
Ouais, tout à fait.
Et ils ont relancé un grand cycle. Oui. Ne parlons pas de Renault.
Même PSA, c'était la même chose.
Ne parlons pas de Fiat et des groupes italiens. Oui. Donc il y a dans l'industrie automobile, l'avantage aussi qui est quand même.
Sauf que là, vous avez une rupture.
Oui, sauf que ce qui est quand même très spectaculaire, encore une fois, pour une industrie aussi lourde, c'est que les cycles de redressement sont parfois aussi rapides que les cycles de déclin. C'est-à-dire que en 4 ou 5 ans, ce qui est quand même peu à l'échelle de ces grands groupes, vous avez des groupes qui remontent la pente. Donc on est sans doute, dans le creux de la vague. Après, est-ce que ce sera le retour se fera avec Carlos Tavares ou pas?
Donc ne hurlons pas avec les loups, c'est ça votre message au sport.
Juste une anecdote, une confidence que me faisait Robert Peugeot, celui qui est à la tête de la famille Peugeot, actionnaire de Stellantis, mais c'était encore du temps de PSA. Et je lui disais, mais est-ce que le danger pour Carlos Tavares, c'est le syndrome Carlos Ghosn? Et il répondait, mais vous savez, dans l'industrie automobile, ce sont des investissements tellement lourd, ça se chiffre tout de suite en milliards. Donc forcément, toute décision, elle remonte en haut. Donc il y a une personne qui prend la décision pour l'ensemble du groupe. Ben à ce moment-là, forcément, il y a un moment où ils se prennent pour Carlos Ghosn. C'est syndrome Carlos, quoi.
Ah, puis il y a un passif entre Carlos Ghosn et Carlos Tavares.
Évidemment, oui. Il y en a beaucoup.
Voilà pour la situation.
C'est rare d'avoir des industries où vous avez
aussi capitalistiques.
Et puis autant où le patron est autant starisé presque que dans l'automobile.
Ah bah, c'était un peu érigé en patron un petit peu de l'auto européenne en quelques années quand même.
Absolument. Il le paye un peu aujourd'hui.
Absolument. Merci Justine Vasson qui est passée nous voir pour parler du dossier Stellantis. On a deux minutes avant d'aller sur bfmbusiness.com pour parler des hausses d'impôts, des baisses de dépenses. Je ne sais pas si vous voulez jouer aux petits chevaux pendant ces deux minutes. On verra demain. Voilà. On le disait tout à l'heure, le Haut Conseil des Finances Publiques qui devait recevoir le projet de budget aujourd'hui. Ça ne sera pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain ou peut-être mercredi ou plus tard finalement. Ouais. Donc jusqu'au bout, on va bouger les curseurs. C'est ça l'idée fondamentalement.
Oui, oui. Le problème, c'est combien d'économies et combien d'hausses d'impôts, quoi. Sachant que les hausses d'impôts, c'est facile à faire. Mais qu'après, ça a un impact très important sur le regard que les étrangers, les investisseurs, même Bruxelles, a sur la France. Et que là, ça peut nous entraîner loin.
Bah, vous êtes rade-main, vous, comme tout le monde.
Le problème, c'est que vous n'aurez pas résolu grand-chose, même si vous arrivez à boucler un budget 2025 avec la guideline Villeroy de Gallo, qui était de dire trois quarts de baisse de dépenses et un quart de hausse d'impôts. C'est-à-dire que vous allez geler des crédits, vous allez aller faire les fonds de tiroir à droite à gauche, vous allez demander une contribution exceptionnelle aux entreprises. Et après, le budget sera aussi compliqué à faire. Je veux dire, c'est quand même la première fois.
Il sera aussi compliqué à faire en 2026.
C'est exactement ça. Le budget de l'année prochaine, pour l'année suivante, sera obligé à faire. C'est-à-dire que c'est quand même la première fois qu'on voit une révision aussi importante du déficit public, ouais, sans avoir en face de révision de la prévision de croissance, c'est-à-dire sans expliquer. Alors globalement, parce qu'après on comprend bien que y a moins de consommation, donc moins de TVA, que l'effondrement du marché immobilier ça coûte très cher en matière de recettes publiques, que la désinflation pour les caisses de l'État n'a pas que des avantages, bien évidemment. Donc tout ça, mais quand même.
Il faudra un jour vraiment qu'il y ait une enquête qui soit faite exactement sur pourquoi on a des chiffres qui étaient quand même si faux, quoi. Comme quoi ça donne raison.
Ça reste
à la gauche en
question.
Disant on
ça
veut avoir les vrais chiffres et nous ici eux-mêmes on leur disait mais attendez, il y a le rapport de la Cour des comptes.
Il y a eu des notes quand même de la direction du Trésor qui était quand même assez alarmiste, depuis un moment. Qui laisse penser que on savait quand même que ça allait plus mal
que ce qu'on disait
et que effectivement les déceptions risquaient d'être grandes.
Ça serait pas mal qu'on ressorte un vieux débat dans les prochaines heures. Où sont vraiment les poches d'économie? On fera ça d'ailleurs puisque Manel revient.
Je vous dirai ça
parce que Manel revient jusqu'à 20h, donc il va nous détailler tout ça et je pense que ça sera un sujet pour les prochains jours au-delà des simples.
Demain on le saura un peu plus quoi.
On espère, on verra en tout cas discours de Michel Barnier demain à 15h, 18h52, vu sur le web comme tous les soirs. On donne un coup de projecteur sur un article du web de bfmbusiness.com et c'est Clément Le Saffre qui nous rejoint. Bonsoir Clément.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue. Bonsoir. Alors, nouvelle illustration de cette crise de l'immobilier dont on vous parle quasiment tous les jours. Vous savez, ces villages situés à 30, 40 kilomètres des grandes villes jusqu'à présent, ils étaient très accessibles financièrement. Désormais, les prix explosent littéralement.
Ça a changé depuis un peu la pandémie, tout simplement. C'est une enquête qu'a menée Marine Cardo pour nous. Elle a repéré en fait que cet été, il y a à peu près 700 communes qui sont passées dans ce qu'on appelle les zones tendues pour l'immobilier. Alors, elles sont passées de C à B1. Il y a 5 catégories. Voilà, elles sont dans la première catégorie dite tendue. Elle nous donne l'exemple de ce village qui s'appelle Villette-Danton. Alors, c'est un village de 5000 habitants. C'est tout petit. 35 minutes de voiture de Lyon. Et les prix, ils ont pris 40% en 10 ans. On y trouve désormais alors des maisons à 400, 600 000 euros, voire 1 million d'euros en plein centre du village. Des maisons qui pourtant, il y a quelques années, étaient accessibles. Aujourd'hui, ça devient très compliqué. Alors le placement en zone tendue, il sert à quoi? Il sert aussi quand même à aider justement à accéder à la propriété dans ces villages. Il y a des dispositifs d'accès comme le prêt à taux zéro, il y a des aides qui se débloquent. Et heureusement qu'il y a ça parce que ça devenait très très compliqué. On a eu un natif de la ville qui nous raconte qu'il a dû s'y reprendre lui à 3 fois en 7 ans pour réussir à acheter une maison.
C'est incroyable. Il y a des gagnants dans cette histoire.
C'est la
personne qui habite là depuis 50 ans.
Exactement. Il y en a qui revendent à prix d'or.
Elle savait pas quoi faire de sa maison. Là,
c'est bingo. Ça nous rappelle l'exode urbain post-Covid 2020-2021.
C'est complètement ça. En fait, quand on appelle les maires, on les a appelés, ils nous disent tous la même chose. C'est-à-dire que depuis 3 ans, ça explose. Ils voient arriver un nombre d'urbains qui veulent se reconnecter, avec la campagne, tout ça. Mais sans rester trop loin de la ville. En fait, c'est ça, quand même, ce phénomène. C'est des villes, voilà, on est à 30 minutes de voiture, où il y a un TER qui passe pas loin. En 20 minutes, on peut être à Lille, à Marseille, à Bordeaux. Exactement, en fait. Les zones urbaines n'arrêtent pas de s'élargir. Résultat, ça devient très très compliqué quand même tout ça, et ça se fait parfois au détriment, on va dire, des locaux quand même, parce que c'est quand même des cadres urbains qui ont un pouvoir d'achat bien supérieur qui arrivent dans ces villages. Les locaux n'ont pas forcément les mêmes moyens et ils se retrouvent, quand ils veulent acheter, un peu bloqués par ces nouveaux acheteurs, ces nouveaux arrivants.
Ah oui, on se reconnecte de moins en moins à la nature finalement, vu le niveau des prix là.
C'est oui, mais en même temps, moi je pense que c'est quand même, il y avait tellement de villages, on en a parlé avec le patron de la Caisse des dépôts, avec son opération centre-ville, tellement de villages, de petits bourgs qui étaient complètement en déshérence. Donc au moins, il y a une solution pour ceux qui sont à 50 km d'une ville.
Ça revitalise des villages. Bon, bah oui, quelque part, voilà. Autre chose, malheur est bon.
Oui, non, mais ce qu'il ne faut pas oublier quand on regarde à la fois les chiffres de démographie des individus et de démographie des entreprises, c'est qu'à beaucoup d'égards, finalement, le dynamisme des petites villes et des petits villages est plus grand que celui des métropoles. Donc on a bien ce phénomène. Avant, en fait, on avait la France, c'était une espèce de il y avait une dizaine de d'archipels comme ça, de grandes métropoles. Aujourd'hui, vous avez une quarantaine finalement de zones qui sont très interconnectées. Par exemple,
La Rochelle,
vous pouvez connecter par exemple des villes qui sont 30 à 40 kilomètres les unes des autres et qui s'interconnectent prenez par exemple
plus en plus le cas en Bretagne,
etc. En Bretagne, vous avez ça effectivement avec des villes qui sont pas forcément des grandes villes et où effectivement c'est une France différente qui se met en place, mais c'est très bien pour tous ces petits villages qui étaient en train de se désertifier.
Non, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Hein.
Absolument, la revanche des petites villes. Ouais. Merci beaucoup Clément. Alors sur l'article, on va voir l'article sur bfmbusiness.com. Il y a un moteur de recherche. On tape le nom de sa ville pour savoir si on est en zone tendue.
Ouais,
c'est
ça. Vous savez, en 30 secondes top chrono.
C'est vrai, si vous êtes en zone tendue, évidemment.
Pour vite acheter une maison et la revendre ensuite.
Absolument.
Exactement, et des bonnes affaires.
Ça va très très vite. Merci beaucoup Clément, merci infiniment d'être passé nous voir ce soir. Emmanuel revient pour sa pénitence en deuxième heure, 19h-20h. Edwige, on se retrouve demain. Alors, demain, édition spéciale.
Émission spéciale, bien sûr, avec de nombreux invités, avec vous Guillaume.
Absolument.
Et on va débriefer le discours de Michel Barnier, discours de politique générale, où là on saura enfin et précisément à quelle sauce les entreprises vont être mangées.
Entreprises et particuliers, absolument. À demain, 18h. Dans un instant, 18h56, le journal. De quoi est-ce qu'on parle? La journée en enfer de Stellantis. Total qui revient à la charge sur sa double cotation. Et puis donc, ces hausses d'impôts et ces baisses de dépenses publiques, on espère en savoir plus, déjà à l'occasion du discours de Michel Barnier. Demain, on parle de tout ça dans un instant dans le journal. Et puis avec nos experts qui reviennent jusqu'à 20h. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, deuxième heure de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir. Cette bourrasque donc pour Stellantis qui a perdu quasiment 15% en bourse aujourd'hui à Paris. Ambition revue à la baisse sur le plan financier pour 2024. Est-ce qu'on met tout sur le dos du marché ou alors est-ce qu'on se pose la question de savoir si Carlos Tavares a une part de responsabilité dans cette histoire? On va voir ça avec Justine Vassogne dans un instant. Et avec nos experts, discours de politique générale de Michel Barnier demain. Toujours beaucoup de questions sur ce qui pourrait être annoncé en matière de hausse d'impôts ou de baisse de dépenses publiques. Total qui accélère sur son projet, vous savez, de double cotation à Paris et à New York. Les infos de Mathieu Pechberti qui sont nos experts ce soir. Emmanuel Lechypre va revenir. On sera aussi avec le communicant Cyril Lachèvre et avec l'ancien député européen Lee Mwangnok. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h.
Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Good evening business, le journal.
Donc les grands constructeurs auto qui continuent de revoir tous à la baisse quasiment leurs chiffres pour cette année. Il y avait eu Volkswagen vendredi. Il y a donc eu Stellantis aujourd'hui. Bonsoir Justine. La révision, elle a été quand même assez sévère chez Stellantis, Justine.
L'ampleur du profit warning a surpris tout le monde aujourd'hui, avec une prévision de marge presque divisée par deux pour l'année 2024, qui devrait s'établir finalement entre 5,5% et 7% cette année, hein, contre une marge à double chiffre prévue initialement. Le cash flow de Stellantis, c'est important aussi, sera négatif entre moins 5 et moins 10 milliards d'euros, alors que Stellantis visait un cash flow dans le vert pour 2024. Certains n'hésitent plus à dire aujourd'hui que Carlos Tavares a perdu sa crédibilité, qu'il est complètement démonétisé et que la question de sa succession, alors que son mandat prend fin en 2026, eh bien, pourrait être posée avant cela. Autrement dit, que le board de Stellantis va lui demander des comptes, tellement la situation aux États-Unis est catastrophique. Comment n'a-t-il pas pu voir le problème aux États-Unis alors que les stocks s'accumulaient physiquement chez les concessionnaires, se demandent certains. D'autres estiment qu'il y a encore temps de redresser la barre, hein, que 2024, de toute façon, c'est une année à oublier, une année noire, mais que le groupe pourra rebondir en 2025. Les plus pessimistes jugent que c'est la fin de l'état de grâce.
Bon, cela dit, il y a des profit warnings chez d'autres acteurs de l'auto aujourd'hui, juste.
Bah oui, depuis vendredi dernier, on en dénombre 4 dans le secteur. Ford via vendredi, Volkswagen vendredi soir, Aston Martin et donc Stellantis ce matin. Il y a quelques semaines, c'était BMW et Mercedes, hein, pour les constructeurs allemands, et pour Aston Martin, c'est le marché chinois, hein, le principal responsable. Ils sont tous en réalité confrontés à la morosité du marché européen et à des ventes d'électriques qui patinent. On en parle souvent sur ce plateau. C'est l'heure du retour à la réalité, expliquent les analystes. La fête est finie pour les constructeurs qui ont profité depuis le Covid d'une situation anormale, avec une demande supérieure à l'offre, avec des marges mirobolantes. Tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est plutôt la douche froide, hein, et ça se ressent en bourse. Regardez les chiffres. Stellantis qui finit à moins 14%, Aston Martin moins 23%, Volkswagen moins 4%, Renault moins 5%. Renault, vers qui tous les regards se tournent maintenant, parce que c'est le seul constructeur européen, hormis Ferrari, à ne pas avoir fait de profit warning pour le moment.
Merci beaucoup, Justine. Justine Vassigny avec nous sur BFM Business. On reparlera bien sûr du cas Stellantis jusqu'à 20h avec nos experts. La Chine, justement, on en parlait. La Chine qui continue d'annoncer des mesures pour soutenir son immobilier. Il y a eu de grandes annonces des villes ce week-end. Pékin en a remis une couche ce matin pour la troisième fois en moins d'une semaine. Mathilde Chaminade.
Shanghai baisse l'apport requis pour un premier logement. Canton autorise ses habitants à acheter plus d'un logement. Shenzhen aussi. Partout, un mot d'ordre, faciliter les achats immobiliers. Mais pour Amandine Gérard, présidente de la financière de l'Arc, ce n'est qu'une partie de l'équation.
Ce que veut faire le gouvernement chinois, à date, c'est relancer l'investissement et protéger l'immobilier et sa croissance de 5%. La transmission à la consommation, on n'a pas encore le plan budgétaire et fiscal qui pourrait permettre vraiment un rebond de la consommation du marché chinois.
Mais cela n'a pas entamé l'euphorie des marchés chinois. Eux qui ont connu leur plus forte hausse depuis 16 ans la semaine dernière, ils ont encore fini sur des chapeaux de roue aujourd'hui. Plus 11% à Shenzhen, plus 8% à Shanghai à la clôture. Hausse spectaculaire, tirée peut-être par des investisseurs qui ne voulaient sous aucun prétexte rater le rallye boursier avant la Golden Week qui commence demain. Les places chinoises seront fermées pour une semaine de célébration nationale.
Mathilde Chaminade, un mot de la situation au Liban, alors qu'il y a eu de nouvelles frappes depuis ce matin sur Beyrouth et que Benjamin Netanyahou continue de durcir le ton contre l'Iran. Il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qui ne puisse être atteint par Israël, a-t-il déclaré. Message passé à l'Iran qui, c'est vrai, reconnaît le diplomate Bertrand Besancenot, a un peu perdu la main quelque part. Écoutez son analyse. Bertrand Besancenot. Alors, qu'on écoutera un peu plus tard donc, sur ce conflit au Liban avec cette nouvelle frappe donc, ce matin du côté de Beyrouth. Michel Barnier qui continue de préparer son discours de politique générale prévu pour demain 15h. Beaucoup de pistes sont sur la table, preuve en tout cas que rien n'est acquis. Le gouvernement n'a pas transmis aujourd'hui comme prévu son projet au Conseil des finances publiques. Ça sera pour mercredi au plus tard. Sachez par ailleurs que Michel Barnier ne sollicitera pas de vote de confiance de l'Assemblée à l'issue de ce discours. Dans l'actualité des entreprises, ça se confirme chez Picard. Moi, Alexandre Zouari s'apprête à devenir l'unique propriétaire. Il vient de signer avec le fonds Lion Capital pour lui racheter les 51% du capital de Picard qui lui manquait. L'opération devrait être conclue au début de l'année prochaine. Et puis Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui ne lâche rien, vous rappelez, sur ce projet de double cotation à Paris et à New York. Bonsoir Mathieu Pechberti. D'après vos infos, il sera à New York mercredi prochain pour en parler avec des investisseurs locaux. Il y va Ça ne veut pas dire que c'est gagné pour autant, Mathieu.
Le projet de cotation, on n'en avait pas parlé hein, depuis la fin du printemps dernier. On sait que le projet était peut-être un petit peu enterré. Et puis finalement, pas du tout. Patrick Pouyanné a bien l'intention d'en reparler effectivement mercredi devant les investisseurs à New York. Et pour éviter une nouvelle polémique, il a, ces derniers jours, déminé le terrain avec le gouvernement. Il a eu un échange avec l'équipe de Michel Barnier pour les préparer, pour les rassurer. Et c'est ce qu'on nous dit, en tout cas, à Matignon, que le PDG de Total Energy nous a rassurés, mais nous restons attentifs à ce que cette opération ne se fasse pas au détriment de la Bourse de Paris. On verra s'il y a une nouvelle polémique ou non. Mais en tout cas, Patrick Pouyanné n'a pas abandonné ce projet de donc coter véritablement Total Energy avec des actions à New York, en plus de sa cotation, évidemment, à la Bourse de Paris. Donc, ça serait une double cotation. Tout en signalant que la place première de Total Energy resterait bien la Bourse de Paris. Et le paradoxe, c'est que si Patrick Pouyanné a réussi à convaincre le gouvernement, hein, contrairement à ce qui s'était passé au printemps, c'est plus difficile en interne où il ne parvient pas pour le moment à convaincre son conseil d'administration où, d'après nos informations, certains administrateurs français sont pour le moment réticents à ce projet. Et donc il doit encore passer cette étape et les convaincre. Donc le sujet n'est effectivement pas gagné. Et en tout cas, il n'y aura pas de décision attendue mercredi à New York.
Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business, sujet dont on parlera aussi avec nos experts évidemment. Un peu après 19h30 sur BFM Business, 19h09 en attendant. On retourne sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On avait une belle semaine, ça a été dur aujourd'hui quand même.
Hein. C'était lourd, dans tous les sens du terme. Non, mais avec un volume d'échange en plus qui était très élevé, à 4,8 milliards d'euros d'actions négociées. Et on termine ce mois de septembre sur une baisse quotidienne de 2%, 7635 points, effectivement, après une semaine qui aura plutôt été porteuse. La semaine précédente, c'était la meilleure depuis plus d'un an. Et là, on se retrouve effectivement en kilosé. Alors, on le regarde sur les autres places boursières européennes, ça s'est un petit peu moins mal passé, on va dire. Le DAX à Francfort ne perd que 0,8%, moins 1,32% pour l'Eurostock 50, mais évidemment, on était complètement lesté par la très forte baisse de Stellantis, par l'ensemble du secteur automobile, que ce soit aussi bien les constructeurs que les équipementiers. Mais Stellantis a perdu 14,7% à 12,40€. On a Renault aussi, moins 5,7% à 38,99€. Mais alors, paradoxalement, on a des valeurs alors extrêmement cycliques qui ont réalisé d'excellentes performances. Il y a une hausse sur le CAC 40, c'est ArcelorMittal, plus 0,47%. On a Aperam aussi, le spécialiste de l'Inox, qui gagne 3,7% à 28,14€. Ben oui, toutes les mesures locales qui ont été annoncées du côté de la Chine stimulent tout un tas de secteurs qui vont peut-être pouvoir repartir, comme celui de la construction. Et évidemment, ben, les sidérurgistes sont concernés au premier chef. Les chimistes aussi, tiens, on a Solvay qui signe une hausse d'1,6% à 35,20€. On a aussi Rexel qui signe une bonne performance, ainsi que Nexans. Le CAC 40 donc termine ce mois de septembre sur une baisse de 2% à 7637 points. Le score sur un mois, il est de 0,9% de hausse, donc pas grand-chose. Et du côté de l'euro face au dollar, mais on reste sur les niveaux proches d'un 12. On a un peu reculé, hein, 11,49 là en ce moment.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Larigauderie avec nous sur BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. C'est la mi-séance, bien sûr, sur le marché américain. L'indice Dow Jones qui est en légère rebaisse, moins 0,24%, 42 210 points. Le Nasdaq, lui, qui grappille doucement, 0,1%, c'est très très calme, hein, 18 136 points. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. 19h11, nos experts arrivent dans un instant. On a beaucoup de choses ce soir, la bourrasque pour Stellantis aujourd'hui. Est-ce qu'on met tout sur le dos du marché ou est-ce que Carlos Tavares a sa part de responsabilité ? Les hausses d'impôts et baisses de dépenses publiques, là on joue un petit peu aux petits chevaux en attendant le discours de Michel Barnier demain, puis Total donc qui remet le couvert, vous savez, sur cette question de double cotation à Paris et à Wall Street. Tout ça plus bien autre chose évidemment. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, bientôt 19h15, ils sont là comme tous les soirs, nos experts du soir. Deuxième partie pour refaire l'actu jusqu'à 20h. Emmanuel Le Chypre est quand même revenu, malgré tout. Bonsoir Emmanuel.
Avec plaisir, Guillaume.
Mais je dis ça, c'est sans grand regret là-dedans, bien sûr. Cyril Lachey va être avec nous. Cyril, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur de l'agence Silence. Lim Hongnok est avec nous. Bonsoir Lim, bienvenue. Bonsoir. Économiste, ancien député au Parlement européen. Beaucoup de choses ce soir, à commencer par cette bourrasque, cette tempête qui a frappé Stellantis, quasiment 15% de baisse ce matin à la Bourse de Paris après ce profit warning. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Il y avait Volkswagen vendredi dernier, il y a eu Aston Martin, il y a eu BMW, il y a eu Mercedes.
Profit warning dû, dit le groupe, à la morosité du marché mondial. Alors, est-ce qu'on dit qu'on met tout sur le dos du marché ou que Tavares a sa part de responsabilité? Écoutez ce que disait le spécialiste Eric Lewin tout à l'heure sur BFM Bourse, sur BFM Business.
Il y a deux questions à se poser, c'est est-ce que Carlos Tavares est menacé alors que la fin de son mandat, c'est dans 15 mois, et pourquoi en est-on arrivé là?
Des portefeuilles,
la grande problématique, c'est qu'à mon avis, d'abord, il y a une valse des dirigeants au sein de Stellantis, et deuxièmement, ils ont vraiment mal appréhendé notamment tous les stocks qu'il y a eu aux États-Unis. Maintenant, que faut-il faire pour Stellantis, puisque c'est la seule question un peu intéressante du jour? Moi, à mon avis, j'ai du mal à voir Stellantis remonter en ligne droite à partir de demain.
Alors, l'action est passée juste sous son cours d'introduction de 2021, l'action Stellantis, c'est quand même un symbole. Qu'est-ce que vous dites, Cyril Lachèvre? Est-ce qu'on met tout sur le dos du marché ou alors Tavares a quand même fait quelques erreurs pour vous ces derniers mois, ces dernières années?
Bon, il y a probablement un peu des deux, mais je pense que le cas Tavares est déjà réglé, si je puis dire, au sens où enfin, les fuites de la semaine dernière sur le board, et notamment certains des gros actionnaires de Stellantis qui n'étaient pas très satisfaits de lui... et donc qu'on laissait entendre, enfin même plutôt clairement qu'on commençait à chercher son successeur pour 2026, c'était une manière, je pense, en termes de communication, simplement d'anticiper la journée d'aujourd'hui. Ils étaient effectivement, évidemment, au courant des chiffres mauvais. Donc comme ça, déjà, ils ont mis ce sujet-là de sa succession de côté. Je veux dire, donc on en parle là ce soir.
La question se pose de savoir s'il ira au bout de son mandat qui expire en 2026.
C'est la seule question, mais à la limite, elle a plus vraiment grande importance, parce que de toute façon, ça se trouve pas comme ça, un dirigeant de ce calibre, quel qu'il soit, rapidement. Donc au moins, de toute façon, on sait qu'il est là jusqu'en 2026, donc c'est une sorte d'assurance. Mais s'il trouve quelqu'un avant, ils le prendront. Donc je pense que le cas Tavares, on pourrait y revenir, est déjà réglé, en tout cas en interne.
Entre parenthèses, on est sur un discours qu'on pensait pas entendre il y a 6 mois s'agissant de Carlos Tavares. Je fais juste
C'est évident. Alors,
c'est phénoménal, quoi.
Dire qu'effectivement, il paye peut-être un management un peu beaucoup autoritaire, la valse des dirigeants aux États-Unis. Est-ce que ceux qui avaient peur lui cachaient des choses? Est-ce que, au contraire, ils voulaient pas l'admettre et donc ils sont partis pour? Ça, on n'en sait rien à ce niveau-là. Mais effectivement, il y a clairement eu un défaut de surveillance de ce qui se passait aux États-Unis, qui est le principal marché, notamment pour les marges de Stellantis. Donc, c'est assez étonnant quand même qu'un manager comme lui n'ait pas vu venir les choses. Est-ce qu'il a pas voulu, encore une fois, les voir venir, ou est-ce qu'on lui a caché? Ça, j'en sais rien.
La question des stocks, la question des prix, à vouloir sacraliser la marge à tout prix pendant de nombreuses années. Il y a eu des questions aussi de management. Le cas italien, est-ce qu'il privilégie pas la France à l'Italie? La question des concessionnaires aussi. Il y a eu un bras de fer assez violent en France, puis là, ça commence à arriver aux États-Unis. Lee Mongnok, est-ce que vous dites, Carlos Tavares, fallait que je la fasse. Est-ce que Carlos Tavares a sa part de responsabilité? Qui aurait pu faire mieux dans un contexte actuel, finalement?
C'est la question qui se pose.
Ouais.
Autre chose. Le marché est ce qu'il est. Les stocks aux États-Unis ne se vendent pas, mais il y a quand même une raison. C'est qu'on est en pleine transition vers le véhicule électrique. On a une concurrence qui s'aiguise avec la Chine. Et puis on a des consommateurs qui sont dans l'attente. Alors après, Tavares a quand même rationalisé les choses après la fusion avec Chrysler et Fiat.
Il a son actif d'avoir redressé PSA, racheté Opel, remonté Opel, fusionné Fiat Chrysler avec l'ensemble PSA.
Et après, ils ont rationalisé. Comme vous le dites, ils ont fermé des concessions. Il est même question de fermer des sites de production historiques en France. Donc, il y a des productions qui sont délocalisées dans les pays à bas coût. Donc, ils ont fait le taf que font toutes les entreprises du secteur dans la logique qui est la logique actuelle. Après, il y a la méthode. Problème de management, ça existe dans toutes les entreprises, et il y a sans doute des règlements de compte. Et ce qu'on sait là, c'est qu'il ne sera plus là de toute façon après 2026. Alors,
Emmanuel,
c'est
grandeur et décadence pour Carlos Tavares.
Il n'y aura pas un règlement de contrat, comme on dit.
Oui, il y avait ce terme qu'employait Justine Vasseung tout à l'heure, notre porte-parole. Il est démonétisé, chose qu'on n'aurait jamais entendue il y a encore 6 mois, s'agissant de Carlos Tavares, finalement.
Oui, mais alors plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de précédent dans la révolution que l'industrie automobile est en train de connaître depuis que l'automobile existe. C'est-à-dire que si vous mettez bout à bout la révolution technologique, la montée en puissance de nouveaux concurrents, les nouvelles réglementations, etc., jamais il y a eu dans l'histoire de l'automobile autant de lièvres à courir à la fois. Donc, Si vous n'êtes pas extrêmement performant dans votre organisation, bah forcément vous faites comme chez Stellantis, c'est-à-dire que vous laissez passer des choses, il y a des dossiers que vous suivez moins bien que d'autres, vous ne pouvez pas être présent sur tous les fronts quand vous êtes même quand vous êtes un grand patron comme ça, c'est pas possible d'être sur tous les fronts, et il y en avait peut-être plus chez Stellantis qu'ailleurs. Après il faut rappeler que c'est une industrie qui a le phénomène Tavares, il est extrêmement classique dans l'industrie automobile. C'est une industrie de cycle incroyable pour une industrie aussi lourde qui engage autant de capitaux, autant d'usines, autant de personnel. Une des caractéristiques de cette industrie, c'est que les marques peuvent chuter très vite et se redresser assez vite. Et tout ça avec souvent un patron emblématique, puisque si on refait l'histoire des constructeurs automobiles européens, depuis 40 ans, vous êtes capable de citer au moins une dizaine de dirigeants mythiques de l'industrie automobile, alors que vous n'êtes pas capable de le faire dans d'autres industries, qui ont été finalement comme ça...
Qui ont connu grandeur et décadence.
Parce que, effectivement, il y a un moment où vous ne pouvez pas toujours avoir raison. Carlos Ghosn, il a eu la bonne stratégie à un moment, et puis ça s'est effondré. Aux États-Unis ça a été pareil. Et donc, on voit bien que ce sont des marques. Prenez Volkswagen, qui a eu des très belles années, qui est aujourd'hui dans la panade. La fin des années 90, c'était aussi une très grave crise chez Volkswagen. Regardez les constructeurs américains, regardez Renault, regardez même PSA, etc. Et donc, c'est comme ça. C'est une industrie extrêmement cyclique. Regardez les marques italiennes, au sein de laquelle les marques, finalement, connaissent des cycles eux-mêmes importants. Et donc, si vous n'êtes pas dans une entreprise qu'on peut qualifier qui fonctionne en bande poisson, c'est-à-dire en gros, c'est-à-dire l'entreprise où vous avez des gens qui sont capables, finalement, avec une certaine autonomie, de prendre les décisions qui vont dans le sens de ce qui est bon pour l'entreprise. Ce qu'on peut voir peut-être au Japon, il y a une entreprise un peu comme Toyota aujourd'hui qui fait un peu exception.
Donc Carlos Tavares, c'est un cas classique. Oui, Cyril.
Encore une fois, pardon, je suis pas certain que ce soit et de loin le seul responsable de ce qui se passe chez Stellantis. Enfin, je relisais l'étude de Rex et Code avant d'arriver. C'est quand même spectaculaire ce qui est en train de se passer venant de Chine. Les chiffres, Rex et Code nous rappelaient, dans une récente étude, qu'en 2019, la Chine exportait 5 fois moins de voitures que l'Allemagne. Oui. Aujourd'hui, c'est 50% de plus. La Chine investit tous les ans 20% de plus, là où c'est quasiment une stagnation en Europe.
Oui, mais ça, Cyril, ça illustre un truc très intéressant, qui est que, pour le coup, sur ce sujet-là, Stellantis est presque le constructeur européen
qui a le plus anticipé. Et pourtant, en Chine,
Chinois. Mais ça montre bien que Stellantis n'a pas été bon sur tous les multiples dossiers.
Ça, c'est un drame depuis des années.
À la fin des fins, on ne peut pas acheter 5 voitures.
C'est vrai.
Oui, Lim,
là-dessus. Oui, ce que d'autres auraient fait mieux, mais là, si j'essaye de prendre un peu de hauteur, c'est l'illustration quand même de la fin du capitalisme managérial dans l'industrie automobile.
Ah, carrément.
Dans managérial au sens durant l'âge d'or de l'industrie automobile, c'était les managers qui pilotaient les stratégies d'entreprise. Là, on est en plein capitalisme financier où ce sont les assemblées générales d'actionnaires et les conseils d'administration qui débarquent les managers au premier coup de grain. Et là, c'est pas la première illustration, parce que Carlos Ghosn, qui avait une stratégie purement managériale, qui voulait prendre le pouvoir en tant que manager et sur les actionnaires japonais et sur les actionnaires français, il a été débarqué tout aussi bien. Et Tavares, peut-être qu'il s'est inspiré de Ghosn pour essayer de faire la même chose chez Peugeot.
Il s'est fait
débarquer de la même façon parce qu'il avait des ambitions managériales peut-être trop prononcées.
Oui, Manuel, là-dessus.
Justement, c'est assez intéressant de lire la littérature sur la théorie du management, etc. C'est-à-dire, vous voyez bien que les années 70, c'était les années années, c'était les 30 glorieuses. Finalement, le business se faisait tout seul. On appelait ça l'ère des baleines. C'est-à-dire, en gros, il y avait beaucoup d'inertie, tout ça fonctionnait très bien. Rappelez-vous d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Wall Street avec Michael Douglas,
ouais,
à un moment.
Ouais, ouais,
là, c'est
ouais.
une scène mythique où il harangue finalement tous les administrateurs de ces énormes groupes américains qui fonctionnent comme des administrations en leur disant, mais vous êtes devenus des pépères, vous faites rien, etc., machin et tout. Et donc, on voit bien qu'après, dans l'ère du capitalisme que décrivait Lim, ce capitalisme mondialisé, ce capitalisme désétatisé, etc., on était vraiment dans l'ère des requins. Ça, c'est là ce que disent les théories du management. Et j'en reviens à ce que je vous citais tout à l'heure, c'est que maintenant, c'est plutôt ce qu'on appelle le management banc de poissons, c'est-à-dire comme un banc de sardines, si vous voulez, les effectifs, les salariés, alors avec peut-être moins d'intermédiaires
oui.
dans la hiérarchie, mais sont capables de prendre les décisions qui vont dans le sens de l'intérêt de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'à posteriori, toutes les réflexions, vous savez, sur la raison d'être des entreprises, moi j'étais le premier au début à trouver ça un peu gadget, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est une colonne vertébrale, finalement, qui donne du sens à l'action de l'entreprise et à laquelle tout le monde peut se rajouter. Et on voit bien que ce management en banc de poisson, eh ben aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne à un moment où, en plus, il y a le télétravail, etc., et où les gens se voient de moins en moins
physiquement. Mais c'est exacerbé dans les entreprises qui sont incarnées par une forte personnalité.
Absolument. C'est bien pour ça que ce management de l'époque des requins, entre guillemets, ce que dit Lim, est peut-être un peu dépassé aujourd'hui.
On vous a mis d'accord avec Lim sur ce sujet. Ça n'a pas duré. Parlons un petit peu
de ce qui nous attend. Ça va bien être le
seul. Ben oui, probablement. Parlons de ce qui nous attend demain. Michel Barnier, donc discours de politique générale. Toujours beaucoup de pistes sur la table concernant les hausses d'impôts et les baisses de dépenses publiques. Écoutez ce que disait ce matin le député Renaissance Mathieu Lefebvre, qui a signé hier une tribune avec une grosse vingtaine de députés Renaissance, qui dit « N'allons pas à la facilité sur les hausses d'impôts, attaquons-nous à la baisse de la dépense publique, mais sans toucher au régalien ». Écoutez ce qu'il disait ce matin.
On commence par dire que notre pays s'était beaucoup affaibli au plan régalien, au plan de ses armées, au plan de son ministère de l'Intérieur, de sa justice. Ces efforts-là, ils doivent être poursuivis. Et donc, nous serons extrêmement vigilants à ce que ces dépenses puissent être préservées. En revanche, nous le disons dans les dépenses. Nous proposons dans cette tribune une réforme de l'assurance chômage, une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Si on avait le même taux d'emploi qu'en Allemagne, eh bien, le problème des déficits serait à reléguer dans les livres d'histoire.
Voilà Mathieu Lefebvre ce matin. Je vais vous poser la question parce qu'on ne parle finalement que ou quasiment que des hausses d'impôts ces derniers jours. Où sont les poches d'économie dans la dépense publique en France? Emmanuel nous répète souvent que si on empile tous les rapports qui ont été rédigés sur le sujet depuis des dizaines d'années, on va jusqu'à la Lune. Alors allez-y ce soir, si vous avez en 2-3 minutes, de façon exhaustive, des pistes à nous donner. Où sont les poches d'économie en France?
On est obligé, là, dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui, d'avoir plusieurs horizons. Là, vous avez concrètement qu'est-ce qu'on peut trouver comme économie à l'horizon de 6 mois, 1 an. Oui. Et puis après, qu'est-ce que vous pouvez faire comme réforme qui vont finalement permettre une baisse un peu structurelle des dépenses publiques. Et il ne faut pas oublier que la particularité de ce gouvernement, c'est qu'il n'a pas de colonne vertébrale idéologique, il n'a pas de programme, il est contraint uniquement de naviguer entre les différentes
lignes rouges. Pas plus que les précédents, je vous dirais.
Ah si, parce que il y avait quand même une vision. Dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, il y avait une vision qui était la vision de la compétitivité, de remettre la France à niveau, finalement, par rapport aux autres grands concurrents européens sur tout un tas de sujets. C'est pour ça qu'il y a eu des coups de rabot fiscaux, etc. Après, vous aviez quand même une certaine vision de l'économie. Là, vous avez un gouvernement. Michel Barnier, il n'a pas été choisi pour ses idées. Mmh. Il a été choisi pour sa capacité à négocier. Et aujourd'hui, finalement, le champ d'action, les marges de manœuvre du gouvernement, ce sont toutes les lignes rouges que tout le monde a posées, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre et les différents partis selon leur rapport de force à l'Assemblée. Et donc, en fonction de ça, vous voyez bien que c'est très compliqué, puisque vous avez le député Renaissance qui dit « Ah non, mais attendez, faut faire des économies, mais faut pas toucher aux régaliens. » Et vous en avez d'autres qui vous disent « Attendez, faut faire des économies, mais faut pas toucher au social. » Donc, si vous ne touchez pas au social, si vous ne touchez pas aux régaliens, c'est extrêmement compliqué. Donc,
où doit-on puiser dans la dépense publique? Lim Hornock, je vous écoute, Lim. On a une minute, mais allez-y. Hein.
Alors, d'un point de vue comptable, purement comptable, si vous comparez par rapport à la moyenne européenne dans les dépenses publiques, là où on est au-dessus des autres, il y a les aides sociales, d'un côté.
Il y a les retraites, surtout.
Il y a
surtout,
les aides d'État.
Et les retraites, surtout, il a raison.
Oui. Donc, d'un point de vue purement comptable, un gouvernement qui veut couper les dépenses, bah, il fait la réforme de l'assurance chômage, il a fait la réforme des retraites. Et puis, de l'autre côté, bah, il réduit les aides d'État, les aides publiques aux entreprises. Mais bon, est-ce que l'un comme l'autre, c'est souhaitable ? C'est pas forcément évident. Même la Commission européenne, dans sa réforme du pacte de stabilité torpillée par l'Allemagne, avait proposé de sortir les dépenses d'indemnisation chômage du calcul des déficits structurels pour laisser jouer les stabilisateurs automatiques. Et puis les aides d'État, on sait que dans la transition écologique, elles sont primordiales. Donc je pense que du côté des dépenses, on est au taquet et que malheureusement, pour les libéraux et les conservateurs, les marges de manœuvre sont dans les hausses d'impôts.
Cyril, pour vous, où sont les poches d'économie ? Voilà, c'est une question un peu brutale, un peu abrupte.
Mais j'ai combien de secondes ?
Allez-y, une minute.
Ah,
on y reviendra après, on en reparlera.
Mais non,
après,
t'as le temps, on a encore 25 minutes.
Oui, oui.
Honnêtement, moi, on se trompe en raisonnant juste en poche d'économie, où est-ce qu'on peut couper, etc. Il y a le fond, donc c'est ça, évidemment, les milliards qu'on peut glaner par-ci, par-là, mais de toute façon, on trouvera toujours des arguments positifs ou négatifs pour une poche ou une autre. Et moi, je rappelle toujours qu'il y a la forme. Comment on s'attaque à la dépense publique ? C'est par la forme. Et je trouve assez, quand même, ironique, enfin une belle ironie de l'histoire, que l'un des meilleurs politiques connaisseurs de la dépense publique, ex-député, ce soit Didier Migaud, qu'on l'ait mis à la justice, alors que c'est le père de quelque chose qui fait toujours bondir, qui s'appelle la LOLF, écrite avec Alain Lambert, donc c'était une vraie co-écriture à l'époque. Je me rappelle, j'étais journaliste, je les suivais là-dessus, j'avais tartiné sur un sujet, encore une fois, pas très amusant, mais quand même, qui disait quoi ? Qui disait, la question n'est pas tant le montant que le pilotage des dépenses publiques, en fait, une sorte de, pour reprendre l'expression tout à l'heure, une sorte de management, un pilotage managérial des dépenses publiques, en disant quelle mission on assigne à l'État pour telle ou telle chose, et après, chaque manager public se donnait les moyens, ou du moins, on lui donnait les moyens estimés, et après, on analysait, est-ce qu'on a atteint les indicateurs, les objectifs. Alors, évidemment, on n'a clairement pas le temps de le faire.
On n'est plus dans ce...
pas le temps de le faire. Oui, mais c'est dommage, quand même. Enfin, c'est quand même ironique qu'on soit tellement au pied du mur qu'enfin, Didier Migaud rentre dans un gouvernement, et c'est pour s'occuper de la justice. Donc,
enfin, Cyril, c'était quand même il y a 25 ans, et pas grand-chose n'a bougé depuis.
Non, mais ça, c'est parce qu'effectivement, de toute façon, il y a cette espèce d'idéologie qui est, encore une fois, est-ce que c'est une question de montant, de niveau, où est-ce qu'on coupe, sur qui on tape,
non, mais...
et encore une fois, on ne réfléchit pas assez sur comment on s'attaque à la dépense publique, sur le fond, ou du moins, comment est-ce qu'on répartit bien intelligemment les dépenses publiques.
Emmanuel.
À court terme, on voit bien
qu'il y a des pistes qui ont été évoquées
par tous ceux qui auscultent l'efficacité des dépenses publiques, la Cour des comptes, l'Inspection Générale des Finances, l'IGAS, le Conseil d'analyse économique, etc. Donc il y a quelques pistes évidentes pour aller chercher des économies sur l'apprentissage. C'est pas notre ami Bruno Coquet qui vous dira le contraire.
Oui.
Il y a quand même quelques milliards à gratter. Sur le crédit impôt recherche, on voit bien qu'il y a quand même aussi quelques abus, qu'il est possible d'aller gratter. Donc là-dessus, sur tous ces sujets-là, vous pouvez peut-être gratter en tout une dizaine de milliards d'euros.
10-15 milliards.
Après, est-ce que ça résout nos problèmes à plus long terme ? C'est pas sûr. Et donc, il faudra bien attaquer ce chantier qui est un gros chantier, qui est le chantier
de la réforme de l'État.
Mais c'est surtout à s'interroger d'abord sur ça doit être quoi les missions de l'État au 21e siècle, avec quels effectifs, avec quels moyens, pour faire quoi, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on abandonne, sur quoi il faut se concentrer.
Voilà. Et vous n'aurez pas la réponse à cette question demain, je vous le garantis. 19h33 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h38, on repart avec nos experts, Cyril Lachève, Lee Mangnok et Emmanuel Lechy. Vous voulez dire un mot des impôts, de ce qui va être annoncé ? On a déjà plein de choses qui sont sur la table. Lim, comment est-ce que vous jugez ce qui sort ? Contribution de 8 milliards d'euros des grandes entreprises sous la forme d'une surtaxe d'IS, taxe sur les rachats d'actions, 200, 300 millions d'euros. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Des économies sur les mécanismes de soutien à l'apprentissage. Sous les niches fiscales qu'on va raboter, crédit impôt recherche, le pacte du trait concerne les grandes entreprises, vous êtes raccord avec tout ça, Lim, vous, fondamentalement, ou...
S'il y a pas
vous dites qu'on préserve quand même les entreprises, allez.
S'il n'y a pas de marge de manœuvre sur les dépenses, du côté des impôts, il y en a quelques-unes, puisqu'il y a quand même eu 60 milliards de baisse d'impôts depuis 2017. Donc, du côté des grandes entreprises, et ça a été même discuté avec Patrick Martin au MEDEF,
oui.
Ils sont prêts à faire des efforts parce qu'ils savent qu'ils
ça plaît pas la CPM, vous avez vu.
Ils ont bien profité de la situation. Je parle des grandes entreprises. Alors évidemment, il y a des conflits entre eux et je pense par exemple que si le gouvernement touche aux allégements de charges sociales, ça va.
J'ai pas mentionné, mais il en est aussi
PME,
question.
Mais ça a été évoqué en ballon d'essai la semaine dernière dans les Échos. Mais il y a des marges de manœuvre, oui, sur la taxation des gros profits des entreprises à forte valeur ajoutée. Et il y a elles ont bénéficié par ailleurs de la suppression de l'impôt sur les dividendes et de la baisse de l'impôt sur les sociétés, fortement.
On est juste revenu dans la moyenne européenne sur l'impôt sur l'IS, hein, quand même. Hein, faut voir ça. Hein.
Oui, mais il y a les impôts de production, dont ça, 20 milliards manqueront dans les caisses de l'État au bout du quinquennat. Alors après, il y a la fiscalité du capital, ça c'est un vrai sujet, parce que la semaine dernière, un autre ballon d'essai avait été lancé, c'était de ne pas indexer les trois tranches de l'impôt sur le revenu, les trois dernières sur l'inflation. Bon, tout le monde a vu que ça tapait les classes moyennes supérieures et que ça tapait pas vraiment les vrais riches, quoi. Et les vrais riches, ils ont bénéficié de la flat tax sur les revenus du capital, de la suppression de l'ISF et sa transformation en IFI. Donc là, de ce côté-là, il y a quand même des efforts qui peuvent être demandés.
Cette piste n'est pas du tout écartée. Cyril, comment est-ce que vous regardez le message? Si toutes ces annonces, toutes ces pistes qu'on évoque sont confirmées demain par Michel Barnier, finalement, ça dit quoi pour vous?
Des marges de manœuvre, il y en a toujours sur les hausses d'impôts, ça c'est sûr. Si l'idée d'un gouvernement qui n'a effectivement pas eu de programme et donc finalement pas de légitimité économique, puisque il s'est fait sur une coalition de plusieurs opinions divergentes, si l'idée c'est de dire on va symboliquement montrer que tout le monde va faire un effort, donc d'un côté on augmente les impôts et de l'autre par contre on va significativement baisser la dépense publique, bon, politiquement ça peut se comprendre, mais je pense que d'un point de vue d'image, ce serait absolument désastreux parce que après avoir en tout cas surtout si c'est des baisses d'impôts sur les particuliers, pour les grandes entreprises elles en ont l'habitude maintenant, mais même je veux dire après avoir martelé, et c'était à peu près la seule chose qui tenait bon dans la Macronie pendant 7 ans, on touche pas, on baisse les impôts pour relancer l'investissement, venez on vous rassure. Si maintenant les investisseurs étrangers de toute façon ils sont conscients que dans 3 ans ça peut aussi dégénérer, voient qu'on renie ces promesses là, c'est quand même encore une fois on attaque la dernière poche de crédibilité économique qu'on pouvait avoir à l'égard des investisseurs étrangers.
Emmanuel, vous êtes d'accord? Lim nous dit la marge de manœuvre sur les hausses d'impôts. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cyril? On envoie un sacré message. La dernière poche de crédibilité, c'est ça que vous dites, Cyril, ou
pas beaucoup d'autres.
Ouais, alors sauf que ce que je trouve quand même intéressant, c'est que on voit bien qu'en matière de baisse d'impôts sur les sociétés, on est au bout d'un cycle. En fait, moi, je suis très frappé du rapport de l'OCDE qui est sorti cet après-midi, qui nous dit que pour la première fois depuis que l'OCDE sort chaque année un rapport sur les pratiques fiscales, c'est-à-dire 2015, pour la première fois, il y a plus de pays qui ont augmenté la fiscalité sur les entreprises que de pays qui l'ont baissé.
Les États-Unis en premier lieu.
Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, à chaque cycle du capitalisme correspond à un cycle fiscal. Le cycle du capitalisme qui a commencé au début des années 80, c'est-à-dire plutôt court-termiste, désétatisé, mondialisé, hyper concurrentiel, a correspondu à un cycle fiscal dont la logique, c'était finalement de moins taxer les facteurs de production les plus mobiles et de plutôt plus taxer les facteurs de production moins mobiles. Les facteurs de production les plus mobiles, c'était quoi? C'était les grandes entreprises, les plus qualifiées et les plus aisées finalement. Et les moins mobiles, c'était quoi? C'était les moins qualifiés et les consommateurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu la fiscalité sur les entreprises baisser et la fiscalité sur le revenu et sur la consommation globalement plutôt augmenter. Là, on voit bien qu'on est en train de changer de régime capitaliste.
Nous ne sommes pas des anomalies.
Non, on a un régime on voit bien qu'on va vers un capitalisme qui est plus vert, plus long-termiste, plus étatisé, plus local, et qu'on voit qu'avec ça, finalement, correspond avec un souci aussi de plus grande justice sociale, une remontée de la fiscalité sur les entreprises que je trouve intéressante, ce qui n'élude pas.
La transition, vous avez vu combien était la transition énergétique, on met un peu sur pause là quand même dans les arbitrages qu'on a aujourd'hui.
À peu près partout.
Oui,
à
oui.
peu près partout.
Mais voilà. Nous ne sommes donc pas des anomalies, c'est ça Lim, c'est mon qu'on retient.
Dans le programme de Kamala Harris, il y a l'impôt sur les sociétés à 28%, donc au-dessus d'une autre.
Finalement. Cyril ? Non, Cyril n'est pas convaincu.
Non, non, je suis pas convaincu. Ou alors, enfin, encore une fois, je suis d'accord avec Emmanuel. C'est vrai que c'est assez stupéfiant ce rapport de publié par l'OCDE aujourd'hui, mais dans ce cas-là, attaquons-nous plutôt aux paradis fiscaux qui sont sous notre nez, type Irlande, qui quand même va faire 35, enfin qui en gros coûte 35 milliards d'impôts non collectés sur les entreprises par sa taxation extrêmement favorable. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'on peut rechercher de l'argent sur les entreprises, mais pourquoi encore systématiquement toujours les mêmes, toujours en France, qui sont doublement
et les entreprises françaises, quoi qu'il arrive, resteront les plus taxées.
Oui, donc.
Avec la baisse de 20 milliards des impôts de production, non.
Ça, c'est loin, si vous mettez tout bout à bout, de très loin, les entreprises françaises sont aujourd'hui les plus taxées du monde. Et les impôts de production, le coup, c'était un vrai handicap. Pour le coup, c'était un vrai handicap.
Et regardez. Fiscale, en parlant d'optimisation fiscale, vous savez très bien que Total ne paye pas l'impôt sur les sociétés en France, par exemple.
Oui, mais Total n'a pas d'activité en France, Lim. Total n'a pas d'activité en France. S'il y avait plein de pétrole en France, ça saurait. Ça saurait. Mais oui, mais c'est pas ça, les profits de Total.
Ils font pas de profit là-dessus, ils les rapatrient.
Alors, il faut rappeler qu'on est obligé, une entreprise est obligée de payer des impôts là où elle fait ses profits et que Total, globalement, compte tenu du fait que, justement, dans les pays où on extrait du pétrole, les impôts sont plus élevés. Si vous prenez le taux d'imposition sur les bénéfices de Total, en moyenne, il est plus élevé que les entreprises qui se font taxer en France. Donc, arrêtons de sortir toujours l'exemple Total. Non, c'est pas la réalité. Non, la réalité,
les entreprises,
c'est que si vous mettez
40,
les cotisations sociales,
il est 10%,
etc.
Il est 10% parce qu'avec les prix de transfert, ils font de l'optimisation fiscale et ils transfèrent les bénéfices
c'est
là
pas
où
faux.
C'est
mais
où
je rappelle que dans le CAC 40, il y a que 40 entreprises.
Aux Pays-Bas ou en Irlande, très précisément.
Alors, Total, justement, puisque vous avez vraiment parlé, on va en continuer, parce que c'est l'info que nous donnait Mathieu Pechberti ce matin sur BFM Business. Le patron de Total, Patrick Pouyanné, sera à New York mercredi pour voir des investisseurs locaux, parce qu'il lâche pas l'affaire, vous savez, sur cette question de double cotation à Paris et à New York. En France, on va voir que ça pose quand même quelques soucis. Pourquoi veut-il aller être coté à New York? Écoutez ce que nous disait, c'est très court, Amandine Gérard, présidente de la financière de l'Arc. Il a ses raisons, Patrick Pouyanné, écoutez.
Et surtout, il permettrait à des investisseurs plus importants de monter encore plus au capital de Total, parce qu'on a une problématique de liquidité sur la place parisienne qui n'est pas propre à Total et qui effectivement est problématique pour notamment les valeurs énergétiques, là aussi dont la régulation européenne est très forte, et donc Total a une décote par rapport à ses comparables, notamment américains, du fait de nos contraintes à nous, gérants européens, sur l'ESG.
Et oui, il a ses raisons, Patrick Pouyanné. Ses actionnaires anglo-saxons sont 40%, 40% actionnaires anglo-saxons. Deux, les banques françaises sont de plus en plus frileuses pour financer des projets dans les fossiles et dans le gaz. Et troisième raison, il a un problème en matière de capitalisation boursière. Chevron, c'est 30% de plus à New York, la CAPI, aujourd'hui. Donc voilà pourquoi il veut à New York, sans quitter Paris.
Sur ces trois sujets, la mode de la responsabilité sociale des entreprises dont on parlait tout à l'heure, plus ou moins, dans le nouveau capitalisme, fait qu'aujourd'hui, les investisseurs en Europe ne choisissent plus Total dans leur sélection. Et donc ça leur pose un problème. Et eux, chez Total, ils ont presque 46% des investisseurs qui sont américains. Donc ils ont intérêt à aller aux États-Unis, car ils se rendent compte que pour un bénéfice équivalent, leurs concurrents lèvent beaucoup plus de fonds aux États-Unis. D'où le projet qui est à peine caché par M. Pouyanné depuis quelques temps. Alors après, ça va poser un problème.
Ils s'en cachent pas, il l'a même revendiqué dès avril dernier, il y a eu une polémique.
Après, est-ce que la France laisse faire, parce que c'est quand même une entreprise stratégique.
Apparemment, d'après les informations de Mathieu Pechberti, Patrick Pouyanné a vu le dire cap de Michel Barnier la semaine dernière pour désamorcer la polémique, sachant qu'on allait relayer l'info selon laquelle il allait à New York. Il a ses raisons, il a raison pour vous d'aller du côté de New York aussi, chercher cette double cotation, sans quitter la place de Paris. Il a bien rassuré le gouvernement français sur ce sujet. Cyril.
Le manager qui a effectivement des responsabilités à l'égard de ses actionnaires, d'un point de vue, c'est totalement rationnel. Je me rappelle qu'à l'époque où la première fois, enfin lorsqu'on avait évoqué ce sujet la première fois, Bruno Le Maire, l'excellent ministre de l'économie Bruno Le Maire, dans le mot l'excellent, il y a ex, disait, mais il avait toute la raison de rester en France, puisque nous sommes en train de faire une union des marchés de capitaux en Europe qui va justement lui redonner cette poche de liquidité. L'union des marchés de capitaux, c'était un vieux pieu malheureusement de Paris, dont les Allemands ne veulent pas. Donc effectivement, on n'est pas prêt en Europe d'avoir les moyens qu'ont les Américains. Voilà. Après, à titre citoyen, on ne peut que regretter ce genre de décision. Ça prouve qu'effectivement, on n'arrive pas à se mettre au niveau dans lequel on devrait être. Mais encore une fois, c'est une décision qui est relativement rationnelle.
Ouais. Il a raison, Emmanuel, pour vous, Patrick Pouyanné, de vouloir cette double cotation Paris, New York. Bah oui, là-bas, le discours est plus avenant, forcément, faut le comprendre.
Oui, c'est vrai. Alors, je suis pas d'accord avec Lim quand il dit, en gros, si Total vaut moins cher en France, c'est parce que finalement, les gens n'en veulent plus. C'est pas vrai. C'est qu'on ne peut plus, aujourd'hui, acheter des actions Total. C'est-à-dire qu'on nous empêche, à nous, épargnants européens, d'acheter les grandes valeurs de l'industrie pétrolière. Allez demander à votre banque d'acheter des actions des grandes valeurs pétrolières, je serais très étonné qu'elle soit partante.
Donc, ah oui, ça fait pas partie de leur portefeuille, parce que c'est du point de vue de la responsabilité sociale des entreprises,
oui,
c'est pas bon.
Mais donc c'est pas les consommateurs, c'est pas les épargnants qui n'en veulent pas, ce sont les banques européennes qui n'en veulent pas, sous ce diktat vert. Et donc, résultat, on comprend qu'il ait envie d'aller se faire coter à New York, tout était très bien dit, il aurait plus de moyens, il serait plus proche de ses actionnaires, puisque 40% des actionnaires de Total sont américains, ça vaudrait plus cher, etc.
Son majorité raté
après,
un petit peu
après, il y a quand même un problème de fond, c'est que théoriquement, si vous voulez vous faire coter aux États-Unis dans les grands indices et notamment dans le S&P 500, vous devez être domicilié aux États-Unis. Et il y a quasiment pas, il y a pas d'exemple. Alors il y a une société britannique qui essaye de vendre l'idée qu'elle a toujours son siège en Europe, mais qu'elle aurait une espèce de siège opérationnel.
Mais là, c'est politiquement, c'est infaisable. C'est politiquement, Ferguson, c'est infaisable. Vous imaginez?
Mais elle n'a pas progressé. Et donc, moi, j'avoue que je comprends pas très bien ce débat, dès l'instant où Patrick Pouyanné dit que, de toute façon, il n'a aucune intention d'abandonner son siège français. Donc, s'il n'a aucune intention d'abandonner son siège français, bah, j'ai bien l'impression que le débat est clos. Alors, c'est peut-être qu'il y a sans doute aussi une forme de chantage sur d'autres points pour dire, surtout, bon, quand même, nous enquiquiner pas trop. Mais je vois pas comment ce serait possible que Total franchisse le pas aujourd'hui.
Pour rebondir sur notre débat tout à l'heure, Patrick Pouyanné n'est qu'un manager. Entre guillemets.
Oui.
Si les actionnaires décident de le débarquer, il sera débarqué tout comme Tavares.
Ah oui, mais là, pour le coup, ça change quoi au problème
Il fait beaucoup de zèle pour servir les intérêts des actionnaires qui ont intérêt à ce que l'action monte. Ouais. Et pour ça, côté ça aux États-Unis permet d'élever de fonds qui font grimper le cours de l'action.
Bah, il va faire grimper sa capi qui n'arrive plus à faire grossir en Europe, visiblement, vu que même s'il y a pas.
C'est ça la logique qui poursuit pour plaire à ses employeurs, entre guillemets.
Emmanuel vous répétera, on n'a pas le temps, que nous avons besoin d'un acteur fort comme Total pour faire notre transition énergétique. Si je lance là-dessus, on en a pour une heure, mais enfin, globalement, c'est le topo. Voilà.
Non, mais je ne me trompe pas.
Oui, mais l'État français va se taire une fois de plus, malheureusement.
Mais encore une fois, je pense que le pas de changer de lieu de domiciliation me paraît quand même extrêmement compliqué à franchir.
C'est très compliqué politiquement. On voit les images de la tour Total désaffectée. Je pense pas que ça passerait effectivement. On n'aura pas le temps de parler des États-Unis du protectionnisme. Il y aura d'autres occasions d'ici l'élection américaine. C'est l'extra time, allez, à 19h52 sur BFM Business. Vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes. Lim, allez, à vous l'honneur.
C'est parti. Alors, un coup de gueule. Sur la communication du gouvernement, dimanche dernier, M. Barnier vient aux 20h pour annoncer qu'il mettrait à contribution les contribuables les plus aisés et les grandes entreprises. Trois jours après, devant la commission des finances, son ministre des finances le contredit en disant « Ah non, je ne toucherai pas aux impôts, on va baisser les dépenses ». Mettez-vous d'accord, parce que si vous n'êtes déjà pas d'accord entre vous, ça va mal se passer à l'Assemblée.
Allez, on va dire que c'était le couac, premier couac du gouvernement. C'était effectivement la semaine dernière. Cyril Lachèvre, 30 secondes mon cher Cyril, c'est à vous.
Alors moi c'est un triste coup de gueule, est-ce que vous connaissez la manufacture Mogin à Tulle?
Non, ça ne me dit
rien. C'est le dernier fabricant d'accordéon en France.
Oui.
J'ai vu ça ce matin. Qui a fait danser probablement François Hollande à Tulle le jour de son élection 2012. Malheureusement, étant en redressement judiciaire, il va faire faillite. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi? À cause de la Chine, qui en fait est maintenant dominante, archi-dominante sur le marché de l'accordéon. Et donc on n'arrive même plus à défendre un accordéoniste français. alors que c'est quand même un peu notre marque de fabrique. Donc voilà, c'est un peu un coup de gueule et beaucoup de tristesse.
La Chine fabrique des accordéons, ouais. Elle est montée en puissance
sur les accordéons. Leader des accordéons dans le monde.
On aura décidément tout vu. Emmanuel Le Chypre, coup de gueule ou coup de cœur, 30 secondes pour terminer.
Ben, coup de gueule pour illustrer les mauvaises méthodes pour aller gratter de l'argent public, et c'est ce qui a été annoncé par La Poste finalement sur la contribution de l'État au financement des, alors pas des vrais grands bureaux de poste, vous savez, mais des bureaux de poste communaux, et puis des points relais où finalement le budget va être amputé de 50 millions, on passe de 175 à 125 millions d'euros. Résultat, bon, franchement là, quand on voit que l'échelle des problèmes, on est plutôt sur les dizaines de milliards, d'aller gratter comme ça quelques dizaines de millions sur ce qui concerne la vie quotidienne quand même de beaucoup de Français. Bon voilà, je trouve ça un peu inutile et malheureux. Disons que le rapport coût-efficacité, voyez, de la mesure est pas vraiment très performant.
Ça s'appelle faire les fonds de tiroir, ni plus ni moins. Là, effectivement, on est
ouais, et des voix en plus pour le RN, oui.
Absolument. Merci messieurs, merci d'être venus ce soir. Cyril Lachey, fondateur de l'agence Silence, Emmanuel Le Chypre pour BFM Business, Limon Gnoc, économiste, ancien député au Parlement européen. Merci messieurs, à très vite, avec plaisir sur BFM Business, 19h54. Je vous redonne rapidement les grands titres de l'actualité ce soir. D'abord, la bourrasque pour Stellantis qui a perdu quasiment 15% ce soir à la Bourse de Paris. Le groupe a annoncé ce matin qu'il revoyait à la baisse certains objectifs financiers pour 2024. Le volume de vente, la marge opérationnelle, Stellantis dit souffrir de la morosité du marché mondial et notamment du marché américain qui est toujours sa principale source de revenus. Aujourd'hui, Michel Barnier qui continue donc de peaufiner son discours de politique générale demain à 15h. Preuve en tout cas que rien n'est acquis, le gouvernement n'a pas transmis aujourd'hui comme prévu son projet au Haut Conseil des Finances Publiques. Ça sera au plus tard pour mercredi. Et puis chez Picard, ça se confirme, Moïse Alexandre Zouari s'apprête à devenir l'unique propriétaire. Il vient de signer avec le fonds Lion Capital pour lui racheter 51% qui lui manquait. L'opération devrait être conclue au début de l'année prochaine. 19h56, Tech & Co, François Sorel dans un instant pour vous accompagner. Nous on se retrouve bien sûr demain 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée. À demain.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.